19h, 21h, Time Foot spécial Euro 2021 avec Bilal Nenman.
Bonsoir à tous et bienvenue sur l'antenne de Beurre FM, 19h pétante. Voilà, vous êtes sur Beurre FM bien connecté. Du lundi au vendredi, on le rappelle, c'est Time Foot, 19h, 21h jusqu'au long de ce mois de l'Euro. Et oui, on le rappelle, on sera ensemble le soir de la finale. On espère que l'équipe de France sera en finale ce soir-là, le 11 juillet 2021. Au menu de cette émission, alors on parlera des Pays-Bas, de la Belgique qui sont justement qualifiés pour ces fameuses huitièmes de finale. Sans forcer, on aura une personne spécialiste du football russe. Et oui, la Russie qui malheureusement, zéro pointé, repartira chez elle. Sans oublier la Copa América et l'Argentine peut-être un cran en dessous de la fameuse Seleção brésilienne. Sans oublier le Danemark, nouveau chouchou de cette Euro. Et on aura, c'est promis, un mot sur l'équipe de France de Didier Deschamps. La France qualifiée sans rien faire, et bien en attendant, c'est mieux. Eh oui, c'est mieux et ça fait sourire tout le monde sur ce plateau. N'oubliez pas le numéro du standard, le 01 53 48 3000. Et aussi, avec toute l'équipe, on vous fera réagir et on essaiera aussi de titiller nos auditrices et nos auditeurs, comme à son habitude. C'est parti, Gogo Time Sport.
Time Sport.
Soir avec moi pour m'accompagner, on aura Sarah. Comment ça va, Sarah, notre consultante?
Bonjour à tous, bonjour Bilal, ça va très bien.
Oui.
Et toi?
Ça va très très bien, Sarah. On a au menu l'équipe de France, Karim Benzema, on va en reparler. Allez, ce soir c'est promis, mais aussi les joueurs en G des Pays-Bas. Samir est avec nous, comment ça va Samir?
Salut Bilal, bonsoir tout le monde, ça va super, beaucoup de choses à dire sur ce qui se passe en ce moment dans cet Euro.
Ouais.
Pour beaucoup, cet Euro est pas très ouf, footballistiquement parlant. Il y en a d'autres qui disent tout l'opposé,
ça dépend des pays.
Et avant que je me fasse engueuler, je souhaite un joyeux anniversaire à Dorsav qui n'a rien à voir avec
allez Dorsav, voilà, on lui souhaite un joyeux anniversaire, voilà. Dorsav, toute l'équipe de Time Foot. Abdel est avec nous ce soir. Comment ça va Abdel?
Ça va très bien, bonsoir à toutes et à tous, très content d'être là.
Ouais Abdel.
Ça débute. D'habitude.
Ça débute, là, on est avec Achille, voilà. Moi j'ai un petit peu peur, le groupe B il fait peur, ce groupe B, la vérité.
Ah, il fait peur? Non.
Moi, il me fait peur ce groupe B.
Parce que
ouais.
Le Russie est éliminé?
Non, parce que quand même, c'est la Ligue des Champions de l'Euro, quoi.
Ouais,
voilà, on va le donner comme ça.
On peut dire ça comme ça.
Ouais, Achille.
On peut dire ça comme ça. Bonjour à tous les auditeurs et auditrices. Et puis, salut à tous et ravi d'être présent en votre compagnie.
Allez, c'est parti. Le premier sujet de cette émission.
Time Sport. Le duel.
La Belgique, les Diables Rouges s'offrent un sans faute, donc, Achille et Sarah. Eh oui, la Finlande échoue à la troisième place, malheureusement. Que dire, là aussi?
Ouais, c'est un peu dommage.
Il y a des choses à dire.
C'est un peu dommage pour la Finlande qui a entretenu l'espoir jusqu'à la 65e minute, si je ne dis pas de bêtises, 65e, 70e minute, qui avait sa qualification pour les 8e de finale entre les mains. Et malheureusement, y a quelqu'un qui est passé par là. Et manque de peau pour eux, Kevin De Bruyne était sur le terrain.
Ouais.
Et Romelu Lukaku aussi était présent. Non, ce qu'il faut retenir de cette Finlande, je laisserai les autres parler, précisément Sarah, parler de cette Belgique, c'est qu'ils n'ont absolument pas à rougir. Pour une première participation, ils sont tombés dans une poule qui était peut-être assez compétitive pour eux. Et ils sont en phase d'apprentissage et qui continuent d'apprendre. On commence à voir des joueurs qui commencent à émerger dans des championnats qui commencent à être compétitifs, comme le jeune petit Camara, qui est au Glasgow Rangers, qui est quand même assez intéressant. Timo Pukki qui remonte en première ligue. Ça reste quand même intéressant à voir si dans l'avenir ils vont continuer à suivre cette route de la diversité, de multiplier un petit peu les profils. Du côté de la Finlande, en espérant que ça continue à grandir, et pourquoi pas être la surprise comme l'a été le pays des Vikings. C'était pas l'Islande,
ouais,
mais
c'était oui les Islandais en 2016.
Ouais,
on comparait hier justement cette Finlande à ces Islandais en 2016. Oui, on a vu ces Diables Rouges qui sont assez craints par les supporters français, hein. Oui, les Diables Rouges, la Belgique. Hein. Oui, parfois on est un peu moqueur vis-à-vis de nos voisins belges. Non, mais c'est vrai, il faut le balancer comme ça, l'antenne. Mais voilà, quoi. On craint un peu cette sélection. Il ne faut pas oublier aussi les Pays-Bas. Carton plein hier face à la Macédoine du Nord. Oui, Sarah.
Oui, la Belgique fait peur et la Belgique fait partie des favoris, n'en déplaise à Achille, qui ne le voyait pas comme ça au début de la compétition. Mais Après, moi, je veux quand même qu'on revienne sur le match face à la Finlande. On les a quand même vus galérer. La Finlande leur a donné du fil à retordre. Donc, à voir. Et je pense qu'ils n'ont pas été confrontés à de grosses équipes, même si effectivement le groupe B avec avec le Danemark, etc., etc., c'est à voir. Mais contre des grosses équipes type France, Angleterre ou enfin voilà, je pense que la Belgique n'aura pas autant de facilité.
Ouais, Abdel.
Non, mais par rapport à la Finlande, déjà c'est plus en gros c'est félicitations à eux pour ce qu'ils ont montré. Je pense que vaut mieux venir à l'Euro pour une première participation et jouer ton va-tout, montrer ce que tu peux faire, comment tu sais jouer au football, plutôt que de rester dans ces 30 mètres et rien montrer un peu à ceux qui connaissent pas la nation. Après, bon, tu dis Belgique et Pays-Bas carton plein. Honnêtement, on était à peu près sûr à 99% qu'ils allaient sortir du groupe. Donc, c'est pas les équipes qu'on regarde forcément. Moi, je préfère dans ces matchs-là regarder les outsiders. Mais lors du deuxième match des Pays-Bas, on y viendra après. Mais il y avait déjà des prémices, par exemple, que ce genre d'équipe, on allait en parler comme des équipes en difficulté dans la suite de la compétition, parce que c'était pas assez ce qui démontrait sur le terrain. Maintenant, à l'aube des huitièmes de finale pour certaines équipes, on se dit peut-être que ça a pas passé, peut-être que ils se sont fait accrocher, ils ont plus de difficultés à faire la différence tôt dans les matchs. Donc voilà, c'est pas une équipe honnêtement qui m'impressionne, même si elle reste dans les favoris bien évidemment, parce que il y a quand même un niveau de jeu et des joueurs de qualité. Mais voilà, j'ai bien aimé le match de la Finlande, honnêtement. Ouais. Je pense que, il l'a dit, Glenn Kamara, des joueurs comme Pukki. On découvre aussi d'autres joueurs. Ça nous permet de voir un autre football à l'Est, on va dire, un autre football scandinave, parce qu'on a l'habitude de Suède, Danemark et autres. Mais voilà, j'ai préféré garder les outsiders. Et moi, c'est un petit clin d'œil à la Finlande plutôt que la Belgique qui m'a impressionné hier.
Alors, Samir. C'est belge. Et après, on va partir aussi sur les Hollandais.
Bah justement, pour rejoindre un petit peu ce que Sarah et Abdel sont en train de dire, c'est que effectivement, ce n'est pas une surprise le fait que les Pays-Bas et la Belgique sortent des poules. Et c'est justement ce qui me fait aussi penser que ce sont des favoris de la compétition, puisque ça ne choque personne qui passe les poules. Donc ça va faire des sélections qui vont peut-être faire peur, en tout cas, des sélections comme l'Allemagne, la France, etc. Pour revenir à ce que tu disais, Bilal, en introduction du sujet, il peut y avoir un France-Belgique dans le prochain tour, en fonction en fait de la position de la France.
C'est son troisième.
Voilà, exactement.
Ah, Sarah a la peur là, c'est pas bon.
Et voilà, on va pas faire la fine bouche.
Ouais.
Les Français ont beaucoup vanné les Belges sur les réseaux sociaux, donc ce serait vraiment complètement ouf que si la Belgique, il y a un Belgique-France et que la Belgique arrive à sortir la France, je pense qu'il va falloir s'attendre certainement.
Ils seront gagnés en compétition.
Déjà en perdant, on a entendu parler Courtois. Il a toujours pas digéré encore 2-3 ans plus tard ce qui s'est passé. Donc s'ils arrivent à tomber contre la France et à les sortir,
il a pas tort là.
Je pense qu'ils vont pas oublier, en tout cas. Enfin, vous suivez tous les comptes sur les réseaux sociaux, Winamax, etc. Donc on voit toutes les vannes. Donc attention à cette équipe belge. Pour parler maintenant un petit peu plus terrain, moi je les sens concernés. Alors c'est sûr que c'est pas, ils faisaient pas partie des 2-3 favoris de la compétition. Par contre, faut pas minimiser. C'est 3 matchs, 3 victoires. Voilà. Donc en gros, attention à la Belgique, attention
aux Pays-Bas marqués. Face au Danemark.
Ouais, Sarah.
Bah justement.
Il y a, enfin, alors, je pense qu'il y a une Belgique avec et une Belgique sans Kevin De Bruyne.
On est d'accord.
On l'a vu face au Danemark. Donc là, la Belgique fait peur, effectivement, avec ce qu'on vient de voir. 3 matchs, 3 victoires, ok, très bien. Mais encore une fois, elle n'a pas été confrontée.
Tu sais, Sarah, pourquoi la Belgique, elle me fait peur? Elle me fait pas peur parce que là, ils ont fait 3 matchs, 3 victoires. Elle me fait peur parce qu'ils ont fait 3 matchs, 3 victoires sans forcer. C'est pour ça qu'elle me fait peur. Ça voudrait dire que dans les prochains tours à élimination directe, moi, je sens une équipe belge concernée, sérieuse. Pour le coup, comme tu le dis, la Belgique avec et sans Kevin De Bruyne, c'est pas la même sélection. Et je pense que lors de cette compétition, ils vont apprendre des erreurs des compétitions précédentes.
Oui, mais
je pense qu'ils seront plus
c'est pas son forcé, c'est pas son forcé, hein, Samir.
Non mais pour
parce
revenir,
qu'ils ont fait rentrer De Bruyne et Witzel et Hazard, etc. Ouais. Dans le match où le Danemark, où pour eux, ils pensaient que ça allait être facile. Je pense que le fait de faire. Non, mais j'ai compris facile. C'est que Voilà.
C'est que les adversaires, ils l'auront pas fait du mal.
Ils ne les ont pas mis en grande difficulté, mais eux, pour moi, ils sont mis en grande difficulté déjà seuls. Et le Danemark, déjà, ils l'auront bien répondu.
Alors, vas-y, Achille.
Je vais vous interrompre. Sarah le dit parfaitement bien. Je prends même sa défense. Pendant 45 minutes face au Danemark, la Belgique est à la rue. Avec un pressing individuel, les Belges, on voyait rien en fait. Et il a fallu attendre l'entrée de Kevin De Bruyne au bout de, je crois que c'était la 60e minute, pour que les Belges arrivent un petit peu à remettre le pied sur le ballon et à tenter de faire quelques actions. Quand on voit aujourd'hui, contrairement aux années précédentes, et d'ailleurs c'est un de nos confrères qui me le disait, il n'y avait que Eden Hazard les années, les saisons précédentes qui étaient tout feu tout flamme, et les autres étaient à un niveau légèrement inférieur. Aujourd'hui, on voit que Hazard est à un niveau inférieur, mais que le collectif est à un niveau supérieur. Néanmoins, à mon humble avis, ça reste encore insuffisant pour être prétendant au titre de cet Euro. Au même titre que, c'est un pays que j'adore et que j'aime tant, au même titre que l'Italie, méfiez-vous des équipes qui font le carton plein durant la phase de groupe, parce que derrière, c'est pas forcément, c'est une autre compétition qui démarre. C'est-à-dire que là, c'est des matchs couperets. Donc on joue son va-tout. C'est vaincre ou mourir. Et dans cette configuration-là, je suis pas sûr que les Belges, même pour en revenir aux Pays-Bas, il y a pas cette sérénité défensive comme on peut retrouver avec l'équipe de France, où tu vas dire, putain, mec, on va jouer pendant 80, 120, 130 minutes, on va pas marquer.
Ouais.
On va pas marquer. Par contre, il y a des gros errements défensifs du côté belge, parce que cette défense à 3, pour moi, elle est extrêmement friable. Ils n'ont pas eu d'opposition assez intéressante avec des équipes comme de type l'Allemagne, voire même peut-être les Pays-Bas, où tu as des mecs, des fusées sur les côtés, et qui sont capables de reculer, laisser le jeu et partir en contre. Et derrière, je ne pense pas que la Belgique soit en mesure d'être un ultime favori. Il faudra attendre de voir le résultat des huitièmes de finale contre qui ils vont tomber. Et si effectivement ils tombent sur un gros et qu'ils arrivent à passer, à éliminer un gros de cette compétition, là, à partir de ce moment-là, je pense qu'ils vont réellement croire en leur chance et ils vont être potentiellement une équipe extrêmement difficile à battre.
Rapidement, je peux, Samir, avant de parler des Pays-Bas.
Juste pour répondre.
On a des réactions en plus.
Je peux être d'accord avec ton analyse générale concernant la Belgique, mais je suis pas du tout d'accord avec les arguments que tu utilises justement sur cette analyse-là, pardon. Je m'explique. Quand tu parles que pendant une mi-temps, le Danemark, en gros, a fait un pressing de fou sur la Belgique. Je viens de te dire, encore heureux. Il fallait qu'ils sortent, même eux, il fallait qu'ils sortent les tripes, il fallait qu'ils se qualifient. Ils étaient en danger. Dès que justement la Belgique a accéléré, De Bruyne a fait une passe d'essai, c'est un but. Ils ont juste eu besoin d'accélérer pour éteindre ce que le Danemark a fait pendant une mi-temps, toute la pression qu'ils ont mis. Et ça, ce que tu dis, c'est aussi gérer les temps forts, temps faibles. Ça, ce que tu dis, je peux te le sortir dans tous les matchs où l'adversaire a un temps fort pendant un quart d'heure, 20 minutes. Et met en difficulté n'importe quelle nation. Donc c'est pour ça que je te dis, avec ton analyse générale, je peux être d'accord, mais les arguments que tu utilises, je ne suis pas d'accord, puisque je peux te sortir un milliard de faits de jeu où à un moment donné la Belgique est en dessous. Et pour juste revenir sur les défenses, autant la défense de la Belgique, je te rejoins, elle n'est pas ouf, mais autant beaucoup de défenses de sélection européenne ne sont pas ouf lors de cet Euro.
On a une réaction sur le groupe. Non, mais il n'y a rien à voir. Sur les Pays-Bas, justement, messieurs, dames. Les Pays-Bas ne sont pas soutenus par leur pays, car la qualité de jeu, Samir, est moins forte que les années précédentes, Sarah. Et surtout, De Boer, il a fait sauter ce fameux... Ouais, le
4-3.
Le 4-3. Voilà.
Mais si,
on répond quoi à ça?
Je réponds exactement la même chose que mon frère Johan Mikou, qui disait, mais attends, on regarde pas les mêmes matchs, en fait. C'est-à-dire que vous voulez quoi? Il y a du jeu, il y a de la possession de balles, il y a des transitions rapides. Ça attaque de tous les côtés, une défense à trois avec des ailiers extrêmement rapides, extrêmement forts, et une grosse activité dans le cœur du jeu. Et au final, ça gagne, et ça gagne pas d'un but d'écart. Généralement, c'est les Pays-Bas qui marquent trois ou quatre buts en règle générale. Donc, à un moment donné, il faut bien l'entendre. Les supporters hollandais qui eux privilégient le beau jeu, mais le beau jeu chez les Hollandais, ça amène rien du tout. Comme les Belges, ça amène rien du tout. Donc à un moment donné, si on peut faire un peu preuve de pragmatisme et peut-être être moins beau à voir jouer et gagner, eh ben pour une fois, je vais être de l'avis d'un certain Didier Deschamps qui aime pas forcément le beau jeu, mais qui préfère gagner. Et ben pour ces nations-là, qui ont besoin de gagner pour un peu légitimer, légiférer tout ce qui ont pu se passer, l'époque Johan Cruyff, l'époque Edgar Davids, les frères de Bourg, et ainsi de suite. Oui, pourquoi pas, mais en attendant, pour le moment, pour moi, c'est une équipe qui est relativement plaisante à voir jouer, tout comme l'Italie, et jusqu'à preuve du contraire, ils ont fait un carton plein. Toujours en attaquant, on prive les gens en football offensif, quoi. Donc, pour moi, ces critiques-là.
Les Pays-Bas, avec toi, Abdel. Qualifié aussi. Mais...
Ouais. Achille, tu dis que là, ils font carton plein. Donc, tu disais juste avant qu'il fallait faire attention aux équipes qui font carton plein. Honnêtement,
ouais, mais ils pratiquent un jeu intéressant.
Mais, ouais, non, je suis pas forcément fan de leur jeu, ni d'Italie d'ailleurs. Je pense qu'ils profitent de beaucoup d'erreurs de concentration et de aussi faiblesse des adversaires. Maintenant, ils ont mis des buts, ils n'ont encaissé que deux, mais je le disais la dernière fois, pour se projeter, je pense qu'ils vont être en difficulté quand ils vont rencontrer des équipes qui savent gérer toute leur puissance offensive, qui vont aussi bien exploiter leurs errements défensifs. Donc je pense que, certes, ça pourrait faire plaisir aux supporters s'ils gagnent, même s'il n'y a pas de beau jeu, mais je pense que, pareil, ils n'iront pas au bout. Et je pense qu'avec Debourg, le fait qu'ils soient revenus tard et qu'il ait voulu changer plein de choses, eh ben, ça va pas être assez pour leur faire passer un cap dans la compétition de cette année.
Allez, vous restez à l'écoute de Beur FM, chers auditrices et auditeurs. On revient rapidement avec la Russie, sans oublier aussi la Copa América.
Time Foot spécial Euro 2021 revient dans un instant. 19h, 21h, Time Foot spécial Euro 2021 avec Bilal Nenman.
Retour sur l'antenne de Beur FM, toujours en compagnie de Sarah, d'Abdel, sans oublier Achille, et notre Samir, et oui, notre consultant. N'oubliez pas le 01-53-48-3000. Allez, on va prendre une personne qui est assez spécialiste sur le football russe avec nous ce soir.
Time Sport.
C'est Tanguy Vincent. Comment ça va, Tanguy ?
Ça va bien.
Ça va très très bien ? Ouais, même avec l'élimination de cette nation qui est la Russie. Eh oui, on s'y attendait pas.
Si, on s'y attendait un peu.
Ce groupe, ouais, je sais pas, parce que avec déjà foot russe, c'est la communauté que vous avez mis en place sur la twittosphère, on le rappelle, ce magnifique compte dédié voilà au championnat qu'est la Russie et aussi à toutes les informations du football russe. Il y a pas mal de personnes qui se disaient peut-être allez, on pourrait essayer de gratouiller cette fameuse troisième place, mais là ouais, de partir directement dès le premier tour, ça fait un petit peu mal.
Oui, en fait, ça fait très mal pour la sélection. Après, c'était assez visible, en fait, dès le départ. La liste était du sélectionneur n'était pas bonne. Des choix avaient été faits et étaient mauvais. Donc, on a, en fait, ce qu'on récolte sur les dernières années.
Oui, Achille, avec nous, notre consultant.
Ouais, bonsoir.
Bonsoir.
Est-ce que c'est pas une erreur d'avoir sélectionné à plus de 98% des joueurs du championnat et pas forcément des joueurs expatriés?
Eh bien, en fait, c'est tout simplement parce qu'on n'a pas le choix. La Russie a la grande majorité de ses joueurs qui jouent dans le championnat national. Et donc, il y en a très peu qui jouent à l'étranger. Il y a, évidemment, Golovin qui joue à Monaco. Il y a Cheryshev qui joue à Valence, il y a Miranchuk qui joue à l'Atalanta depuis une saison. Donc il y en a très peu en effet qui jouent à l'étranger et c'est un gros problème pour la sélection nationale.
Ouais, mais est-ce que c'est peut-être pas la raison pour laquelle l'équipe nationale est un échec?
Je pense que l'échec en fait il est assez global. On est sur un problème de formation déjà, de formation d'entraîneurs. Les entraîneurs n'ont pas une bonne philosophie, on l'a vu notamment avec Tcherchesov. Après, il y a des difficultés aussi financières pour les clubs aussi, qui font que le niveau est assez faible, hein, entre guillemets. Et ça ne se répercute pas positivement en fait, sur la sélection nationale.
Tanguy, allez, un mot avec Abdel, notre consultant.
Bonsoir, vous parliez de mauvais choix déjà dès l'entame de la liste. Quel joueur manque-t-il à la sélection, peut-être pour qu'elle soit plus compétitive?
Il y a quelques joueurs. Alors moi, ce que je voulais en fait, c'est en effet une forme de transition par rapport à 2018. C'est vrai que 2018 a été une bonne année, évidemment, déjà parce que la sélection jouait à la maison, donc il fallait représenter le pays, donc ils l'ont représenté correctement. Après, c'est vrai qu'on n'a pas vu depuis les depuis ces années-là une bonne progression. Le jeu est assez non identique en gros à ses défensifs. Avec très peu de buts quand même, notamment dans les matchs de préparation. Et donc j'attendais un petit peu de changement dans cette liste avec des jeunes qui commencent à monter. Alors je pense notamment à Zafabian du Dynamo. Qui pouvait peut-être donner quelque chose à cette sélection, en tout cas un petit peu de jeunesse. Et malheureusement, il a fait le choix plutôt de l'expérience, de la vieillesse plutôt, avec notamment Jurkov qui a quand même 37 ans. Quoi. Donc évidemment, ça a été compliqué de commencer avec lui. Quoi.
Et justement, en 2018, comme vous le disiez, c'était une Coupe du Monde à la maison. On avait l'impression que c'était un peu la dernière pour certains joueurs, pour un groupe qui était là depuis longtemps. Trois ans après, on sait toujours pas si vous êtes en reconstruction, si où elle en est en fait la sélection. On dirait que vous êtes pointé un peu là-bas, un peu au hasard, sans savoir ce qui se passait. Quelle est la situation actuelle? Est-ce que c'est une reconstruction? Est-ce que on s'appuie toujours autant sur des vieux comme vous le dites? Et pourquoi?
Je pense que justement, Tchertchesov a voulu continuer avec ce groupe, donc continuer avec des anciens, ceux qui ont fonctionné quand même globalement en 2018. Donc je pense par exemple à Zobnin, le fameux qui a fait cette passe incroyable sur le deuxième but. En 2018, il est bon, donc il a fait le job. Mais là, cette année, il n'est pas bon. Déjà en club, il a quand même des difficultés. Et puis en sélection nationale, on a vu que c'était pas ça. Alors, c'est pas le seul à incriminer. Je pense que c'est l'équipe et surtout l'image qu'a mis en place le sélectionneur qui est vraiment critiqué au pays. Je pense qu'il y a un besoin réel de renouveau, clairement. Tant au niveau des joueurs qu'au niveau du sélectionneur.
On poursuit avec Achille avant de terminer. Là, avec Tanguy Vincent.
Ouais, Tanguy, tu parlais un petit peu de problème de formation. Ce qui est quand même assez surprenant, c'est qu'on sait tous qu'en Russie, il y a de plus en plus d'oligarques, que Gazprom est derrière le Zénith de Saint-Pétersbourg, pour ne pas citer quelqu'un d'autre. Et on sait qu'il y a quand même des clubs assez historiques. Comment ça se fait qu'il y a autant d'argent dans le pays et qui n'est peut-être pas forcément utilisé à bon escient et plutôt à chercher à recruter des joueurs qui vont en fin de carrière dans un pays exotique, comme bon, considéré exotique un petit peu façon de parler, plutôt que de privilégier la formation russe qui, à mon sens, regrette un peu ces années de terreur.
Bah, c'est vrai que la formation, déjà, il y a quand même un renouveau. C'est-à-dire que il y a un travail qui est fait quand même par la fédération et notamment par pas mal de clubs pour relancer, redynamiser cette formation. Alors il y a des travaux sur le travail du coach, vraiment les notions, aller voir à l'étranger ce qui se passe, etc. Donc je pense qu'il y a quand même un renouveau qui est en train de se mettre en place, mais ça va prendre du temps. Après, il y a certains clubs qui ont vraiment accentué leur travail sur la formation. Je pense par exemple à Krasnodar, qui fait du bon travail. Il y a d'autres centres de formation qui font du bon boulot. Mais malheureusement, on a le top 5, notamment russe, et notamment le Zénith, qui ne fait pas ce job, qui préfère aller chercher peut-être des étrangers, des bons joueurs aussi dans d'autres clubs. Maintenant, ils commencent à tourner aussi à aller chercher des jeunes aussi un petit peu sur le championnat russe. Mais voilà, ça manque encore de contenu.
On termine, Tanguy Vincent, avec notre consultant Samir.
Salut Tanguy. J'ai une petite question. En général, tu sais, bon, je vais être franc avec toi, mais comme tout le monde, hein, j'ai pris aucun plaisir à regarder cette équipe russe pendant l'Euro, très sincèrement. Mais par contre, pour essayer de prendre les patins de la Russie, tu sais, on dit en général que les grands changements, ils arrivent après plusieurs défaites. Et est-ce que les derniers éliminatoires, c'était pas un trompe-l'œil en fait de la Russie? T'as 8 victoires, t'as 2 défaites, t'as 31 buts marqués, que 8 encaissés. Est-ce que justement le sélectionneur, pour lui, il était dans les bons rails justement, et qu'il se trompait pas pour lui?
Ah ouais, il a joué. En fait, il a joué sur l'après 2018. Il avait vraiment une hype. Il a joué sur le collectif, voilà, tout était positif vraiment à la sortie de la Coupe du Monde. Et donc, il a continué là-dessus. Sauf que cette dernière année, notamment sur ses matchs de préparation, ont été mauvais. Et puis on a senti un collectif pas huilé. On le sentait déjà même quand c'était même quand les résultats étaient à peu près corrects. Donc c'est vrai que à ce niveau-là, il y a un besoin vraiment de renouveau. Et malheureusement, sur l'histoire, sur les 10 dernières années, on se rappelle évidemment de 2008, quand ils avaient fait les demi-finales à l'Euro, avec Archazine, etc. Il y a fait 2018 ensuite, mais entre les deux, il n'y a rien non plus. Donc c'est vrai que on attend, on espère en tout cas, de cette grosse débâcle qui va ressortir quelque chose de la sélection, et on n'en est pas sûr.
Un grand merci Tanguy Vincent, on le rappelle, hein, du compte Twitter que l'on peut retrouver sur cette twittosphère foot russe, compte dédié et spécialiste du football russe justement. Eh ben, on verra bien pour la phase finale, peut-être de l'Euro, de la Coupe du Monde 2022.
Il y a peu de chance.
Ouais, là aussi. Bon, en tout cas, au renouveau, ça, il le faut. C'est le mot fort, hein, qu'on gardera avec vous, Tanguy. Un grand merci pour cette disponibilité, en tout cas.
Merci à vous. Au revoir.
Au revoir. La suite avec la Copa América.
Time Sport. La troisième mi-temps.
Ah oui, là, elle a été assez forte, cette troisième mi-temps. La Copa América ou l'Argentine de Lionel Messi, un cran, comme on le disait en introduction de cette émission, en dessous du Brésil. Eh oui, là, faut en parler, l'Argentine en quart et en record encore pour Lionel Messi. Mais quand même, ça a été assez poussif, Abdel.
Ouais, bah depuis, ça fait trois matchs, ils ont fait un match nul, deux victoires à chaque fois courtes, certes, mais qui leur permet de d'engranger des points. Après, si tu fais le comparatif avec le Brésil, c'est vrai que le Brésil, c'est tenant du titre, c'est toujours assez fantasque, il y a plein de spectacles. Maintenant, pour faire un comparatif avec ce qu'on disait tout à l'heure, je pense que plus t'es mis en difficulté rapidement, entre guillemets, dans une compétition, je mets bien difficulté entre guillemets, et ben t'es concerné et t'es prêt à aller au combat tout au long de la compétition. Tu rentres pas comme ça en quart ou en huitième ou autre sans avoir été entre guillemets bousculé. Maintenant voilà, hein, c'est une équipe d'Argentine qui a beaucoup tourné sur les trois matchs. Il n'y a pas eu le même 11 d'aligné. Il fait confiance à son groupe. Et après, moi, d'un point de vue personnel, en général, j'ai plus de facilité à suivre les matchs de l'Argentine qu'à suivre les matchs du Brésil, par exemple. Peut-être que voilà, il y a toujours des enjeux, il y a toujours un duel. Et je pense que s'il y a bien une année où on peut se dire, allez. Dernier baroud d'honneur là pour Messi et compagnie, pour gagner un titre entre guillemets en sélection, et ben c'est le moment de continuer sur cette voie là et d'aller chercher un titre. Après, franchement, on verra que dans le dernier carré la vérité qui ira au bout, tout simplement.
Oui, messieurs, dames.
Moi qui suis pro supporter, tout
qui
monde
argentin
sait,
voilà
argentin de naissance, et exactement. Oui, c'est, bon, on peut pas comparer, c'est pas comparable. Aujourd'hui, l'Argentine et le Brésil sont absolument pas comparables. Ils jouent sur deux planètes totalement différentes. On arrive au Brésil avec des joueurs totalement aboutis. En Argentine, c'est une équipe qui est en totale reconstruction. Enfin, du moins, qui tente de se reconstruire. Alors, c'est pas forcément très facile, au quotidien. Le Scaloni fait quand même tente de faire un beau travail. Contrairement à Abdel. Je pense que si effectivement la compétition s'était tenue lieu comme initialement prévu en Argentine, j'aurais eu l'espoir d'obtenir un trophée. Malheureusement, cette compétition se joue au Brésil, sur des terrains, sur les champs de patates. Faut appeler un chat un chat. L'Argentine, malheureusement, même si on arrive dans le dernier carré, et je ne cesse de le répéter, c'est très dur ce que je vais dire, mais tant que Lionel Messi sera et portera ce maillot, l'Argentine n'aura pas de trophée. Et c'est très dur.
C'est fort.
Non, c'est très dur.
Fort, ce que tu
mais
dis, là.
C'est un constat, c'est une réalité. C'est qu'à un moment donné, quand vous arrivez sur une finale de Coupe du Monde, vous faites trois finales de Copa América et que vous êtes incapable de gagner un trophée, ça fait quand même beaucoup.
Il y a Gonzalo Higuain qui rate les occasions et tout.
D'autant plus que cette équipe-là, aujourd'hui, elle est beaucoup plus faible que les années précédentes. C'est-à-dire que plus les années passent, plus l'équipe, elle perd en qualité parce que les joueurs qui sont sélectionnés, ils sont pas encore à leur prime. Et on voit un petit peu Rodriguez qui fait son apparition. Il y a Lo Celso qui tente quand même d'être assez régulier en sélection, mais c'est pas des joueurs en club qui sont
indispensables,
indiscutables. Et donc ce qui fait que ça, c'est toujours cette petite recherche. On joue encore avec Otamendi. Ça, c'est, tu vois, il y a trop de choses à rectifier pour pouvoir espérer aller jusqu'au bout. Néanmoins, à mon sens, en tant qu'Argentin, et c'est très dur ce que je vais dire, je pense que le Brésil, ils n'ont pas d'adversaire, quoi.
Mais le fait d'avoir moins de qualité, peut-être que ça te permet de combler des trous à un moment donné où tu avais trop de joueurs. À un moment, l'Argentine, il y avait 15 000 attaquants, 15 000 milieux.
Ouais, et ça fait finale de Coupe du Monde.
Oui, c'est bien. Mais je veux dire, dans des compétitions, entre guillemets, on va dire locales, pour moi, je pense qu'il y a toujours besoin d'avoir peut-être des joueurs, entre guillemets, du cru ou des mecs qui sont pas forcément, qui ont le plus gros potentiel pour pas combler les trous, mais apporter ce truc qui, dans des moments, peut servir pour justement te faire gagner des matchs.
Il y a une nouvelle génération qui arrive.
Parce que c'est pas une équipe de stars, on le dit tout le temps.
C'est
pas forcément les équipes de stars qui vont tout le temps au bout. Après, le Brésil, quoi qu'on en dise, ils ont bien gagné sans Neymar. Si tu veux faire le comparatif avec Messi, on peut le faire. Hein.
Je vais juste, et je clôturerai juste sur ça, la nouvelle génération de joueurs argentins, avec celle-ci, je vous garantis qu'il y aura des trophées. Je parle de Matias Zarraco, de Thiago Almada, qui devrait en plus de ça s'engager avec l'Olympique de Marseille. Il y en a d'autres, Nicolas Dominguez, qui joue aussi en Serie A. Il y en a vraiment pas mal qui sont extrêmement intéressants et sur qui on peut espérer construire l'avenir.
Justement, la sélection d'Argentine, c'est une énigme. Pourquoi ? Moi, je vais te rejoindre sur un point. Et pour moi, tu n'es pas fou ce que tu dis sur le cas Lionel Messi. Moi, je me pose une question. Peut-être que vous avez la réponse, moi je l'ai pas. Je sais pas dans quel sens justement tourner ma question. Je regarde la sélection jouer, je me dis, faut attendre un exploit de Lionel Messi pour gagner.
C'est ça le problème.
Je me dis, on dirait, il faut que Messi fasse quelque chose pour que la sélection gagne. Je me dis ça. Mais d'un autre côté, je me pose la même question que toi. Si quand Lionel Messi sera plus là, est-ce qu'autour de lui finalement, on va pas se dire, le génie il est plus là. Maintenant nous on va jouer peut-être plus relâché. Je sais pas si t'as entendu toutes les polémiques qu'il y a, en sélection, mais dans d'autres clubs, que quand t'as une star qui prend beaucoup de place dans le vestiaire, qui a beaucoup d'ego, tu as des joueurs autour de lui malheureusement qui ne jouent pas relâché parce qu'ils ont peur de beaucoup de choses, parce que ces gens-là en général prennent beaucoup de place dans le vestiaire, sur le terrain, et peut-être que cette sélection-là joue avec le frein à main. Alors peut-être pas Messi, mais peut-être les joueurs autour de lui.
Tu mets le doigt sur quelque chose de très 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 intéressant et très pointueux dont je voulais pas forcément parler, mais
alors Sarah peut-être va le faire aussi avant la pause. Sarah,
je suis d'accord avec ce que dit Samir, dans le sens où tout gravite autour de Messi et on a tendance à attendre qu'il fasse la différence et que ça vienne de lui. Maintenant, pour cette jeune génération qui arrive, tu te fais bien de te poser la question, mais je pense pas, tu vois, je pense pas qu'il y aura un pied sur le frein, et au contraire, je pense qu'ils vont réussir à s'adapter et avoir un système de jeu qui fait que tout le monde va participer au jeu et tout le monde va contribuer à, pourquoi pas, avoir cette coupe.
Avoir ce trophée, oui.
Alors Abdel, on termine avec toi.
Pour moi, le cas Messi, c'est un faux problème, dans toutes les sélections, etc. Il y a de gros égos, même lui, si c'est un égo particulier, je pense que ça devrait être un plus pour son équipe. Ça l'est maintenant. Il y a eu des échecs, de nombreux échecs.
Là, je suis pas d'accord. Pourquoi Lucas Zidane, c'est un problème?
Attention, Messi, il a fait énormément de différence. Déjà, parce que c'est facile. Il y a des 5-6 matchs pour arriver en finale, arriver au bout de la compétition. Comment il a aussi besoin à un moment d'être soutenu. Il arrive, il fait 6 matchs. La plupart du temps, c'est lui qui les amène au bout par ses exploits individuels, etc.
Je suis pas forcément d'accord.
Il a besoin d'être soutenu à un moment donné. Tout à l'heure, je faisais la boutade sur Higuain.
Ouais.
Higuain, combien de trophées il lui a enlevé? Je parle de lui particulièrement. Il rate des occasions incroyables.
Il y en a
plein.
Messi
peut être un problème. C'est vrai
qu'il
y a des joueurs qui peuvent jouer très peu, pas relâchés du tout, etc. Mais à un moment donné, quand t'as envie aussi de briller dans ton pays, d'être aussi, entre guillemets, rester dans l'histoire.
Je vais me permettre de t'interrompre.
Allez, rapidement.
Moi, je pense que c'est un faux problème.
Eder, il donne le titre. Eder, qui n'est pas Gonzalo Higuain, qui n'est pas, comment il s'appelle, attends, quand Manchester City, enfin, de Barcelone maintenant. Aguero, qui n'est pas Palacios. C'est Eder qui donne le trophée au Portugal. À un moment donné, quand tu as un différentiel aussi important entre un joueur et toute une équipe, il faut qu'à un moment donné, lui, il dégonfle son cerveau et se mette vraiment au profit du collectif et se rentre dans un collectif et qu'il ne se mette pas à part. en espérant que les autres montent d'un côté.
Merci Achille, merci Abdel. Restez avec nous, chers auditrices et auditeurs de Beurre FM, pour la dernière partie de cette première heure, car on redémarrera pour la deuxième heure, 20h, 21h. On parlera, là aussi, après la courte page de pub, on parlera de Danemark, sans oublier l'équipe de France. À de suite.
Time Foot spécial Euro 2021 revient dans un instant. 19h, 21h, Time Foot spécial Euro 2021 avec Bilal Nenman.
Pour la dernière partie de cette première heure, on est ensemble jusqu'à 21h, toujours avec Sarah, Abdel, Samir et notre consultant Achille. Le Danemark se qualifie miraculeusement derrière les Diables Rouges belges. Allez, c'est parti.
Time Sport, les prolongations. Les prolongations.
Abdel, on t'écoute. Hein.
Miraculeusement, oui, si on voit un peu le scénario, pour retracer rapidement... Il y a eu un match contre la Finlande avec un drame qui a plutôt bien terminé, on va dire, où ils ont perdu face à la Finlande, où ils se sont mal lancés du coup dans la compétition. Cependant, il y avait quand même un niveau de jeu déjà qui était présent, qui a été affiché. Après, on en parlait juste avant, les 45 minutes contre la Belgique, elles laissaient déjà présager de belles choses. Et hier, ils sont encore montés en puissance pour envoyer une claque à la Russie et les renvoyer chez eux. Honnêtement, voilà, c'est pas une surprise, comme on l'avait dit lors de l'ouverture de l'Euro. C'est une équipe qui se qualifie tout le temps, qui sort tout le temps des poules. Maintenant, c'est vrai qu'avec 3 points, ben finalement, on se dit que c'est un peu pauvre, mais le tableau est plutôt joli et plutôt bien dressé pour eux, dans le sens où ils vont affronter le Pays de Galles, si je me trompe pas. Donc, quand tu fais un début de compétition comme ça, tu te dis que ça peut être compliqué, mais au final, quand t'avances, les étoiles, elles commencent, et les planètes commencent à s'aligner, pardon. Et voilà, je les vois passer honnêtement face au Pays de Galles, si on se projette. Il y a de très bons joueurs quand on regarde un peu les compositions qui sont mises en place depuis qu'Eriksen est sorti. Ils sont passés d'un 4-3-3 à un 3-4-3.
Ouais.
Ça permet plus de soutien offensif.
Ouais.
Un petit clin d'œil à Delaney, qui est un joueur un peu qu'on nomme pas souvent, qui est du côté de Dortmund, très intéressant.
Hojbjerg aussi.
Ouais. Mais ouais, franchement, c'est des joueurs, quand tu regardes le 11, qui jouent la plupart dans les 5 plus grands championnats, qui jouent pratiquement les 5 premières places à chaque fois dans les championnats où ils sont. Donc franchement, voilà, un gros clin d'œil à eux. Et je suis très très content qu'ils soient qualifiés.
Juste pour ces infos concernant le Danemark, rapidement.
Juste pour rajouter très rapidement, le Danemark, c'est l'équipe la plus séduisante. Parce que c'est l'équipe qui a tiré le plus de fois au but et qui s'est créé le plus d'occasions sur cette phase de groupe. Donc c'est pas une surprise, et comme on l'avait dit, il le dit si bien Abdel, avant le début de cette Euro 2020. La compétition, c'est l'équipe à suivre.
Ouais, Abdel.
Un dernier mot, mais
alors
le chouchou, oui et non, parce que avec ce qui s'est passé, c'est vrai que on les regarde d'un autre œil, mais faut pas croire que ça leur donne un second souffle, certes, mais ils étaient déjà en bonne position, ils étaient déjà attendus avant l'Euro, donc attention aux termes qu'on emploie.
Alors on passe à l'équipe de France.
Time Sport, l'actu bleu. L'actu bleu.
Eh oui Samir, ça va te faire plaisir avec Sarah. L'équipe de France qualifiée pour les 8e de finale de cet Euro 2020 avant son 3e match. Là aussi il y a des choses à dire, Sarah. Eh oui, sans rien faire, qualifiée.
Ouais, si on veut. Les matchs d'hier ont fait nos... Enfin le classement d'hier a fait nos affaires. Équipe de France qualifiée. Après je pense très certainement qu'on va pas se... Enfin que Deschamps va aller viser la première place du classement.
On l'espère. On verra demain.
Après, je me concernant un petit peu déçu de cette équipe de France. Je m'attendais à mieux face à la Hongrie. Je pense qu'on l'a un peu trop sous-estimé. Et donc on verra face au Portugal. Mais
attention au Portugal, Samir. Ouais. Eh oui. C'est là-bas, c'est chez eux, au Portugal.
Ouais, attention au Portugal. Mais après, maintenant, on sait que quoi qu'il se passe, on est qualifié. Donc là, je pense qu'ils vont jouer un peu plus relâché. Bon, pas forcément d'accord.
Mais est-ce qu'on peut parler d'une qualification méritée, tu vois?
Il reste un troisième match à jouer. Il reste un troisième match à jouer. Si la France fait une belle prestation contre le Portugal, t'as 2 matchs sur 3 finalement qu'ils auraient assuré. Au final, tu te diras dans le groupe qu'on appelle le groupe de la mort, ça aurait été pas mal. Et moi, je reste, alors peut-être que je suis un peu seul à dire ce genre de choses, mais alors, moi, je vais contredire ton argument qu'on a sous-estimé l'équipe de Hongrie. Pour moi, on ne l'a pas sous-estimé.
Ouais.
C'était un match qui s'est joué à 15h. Ils n'avaient pas l'habitude. Il faisait chaud.
Ouais,
devant
très chaud.
Le public, 65 000 personnes, le public hongrois. La Hongrie, ils ont fait le match de leur vie.
Pas habitués.
Ils étaient en sur-régime. Ils se sont battus sur tous les duels. Ok, la France, normalement, aurait dû gagner parce que sur le papier, de toutes les façons, ils doivent taper tout le monde, puisqu'ils, sur le papier, sont plus forts que tout le monde. Mais le football, c'est pas une science exacte. C'est 11 hommes contre 11 hommes. Tu ne vas pas gagner tous les matchs 5-0. C'est pas comme ça que ça se passe. Moi, ça m'a pas perturbé le match nul contre la Hongrie. Tu vois, maintenant, si ce qu'on a vu contre la Hongrie, ça se répète vraiment à tous les matchs lors de la compétition, on fait que de le dire depuis le début, quand ça va être contre des grosses nations, à un moment donné, ça va pas passer.
Ouais, alors, non, mais par rapport à ce qu'a dit Sarah, est-ce que c'est une qualification méritée? Oui et non, mais dans le sens où aussi il y a.
On verra demain, Abdel aussi.
Non, mais c'est
il faut attendre.
Oui, non, mais c'est le groupe de la mort. Donc, dans tous les cas, je pense qu'on sait qu'il y a dans ces trois équipes-là, les trois allaient se qualifier, en tout cas pour moi. Maintenant, demain, je pense qu'on est face à on va être face à un adversaire qui est le Portugal, qui se met en difficulté tout seul. Quand on voit les joueurs que fait rentrer Santos, qui mettent tout de suite le bouillon, qui font tout de suite la différence, c'est dur d'imaginer qu'on puisse mettre en difficulté avec le 11 qui l'aligne depuis les deux matchs.
Abdel ajoute aussi qu'en fonction de la position dans laquelle on termine le groupe, la position en huitième de finale va être vraiment d'un niveau différent.
Justement,
on est avec toi, Achille, vas-y.
Comme le disait Sarah, pour moi, cette qualification, elle a l'image de Didier Deschamps.
Carrément.
Bah oui.
Et pourquoi Didier Deschamps? C'est le sélectionneur champion du monde.
Non, mais parce que à un moment donné, il faut que, comme par hasard, l'Euro soit décalé d'un an. Déjà, première chance. Deuxième chance, cette compétition, il faut que le troisième, enfin, qu'on rajoute un huitième de finale. Or qu'avant, il y avait que des quarts directement. Donc, il n'y avait pas forcément de repêchage. Donc là, on se dit encore une fois, l'équipe de France, elle est chanceuse. Et là, pour une fois, j'ai envie que Didier Deschamps, il pose ce qu'il a entre les jambes sur la table, qu'il fasse, qu'il change totalement son 11. À la limite, qu'ils perdent volontairement contre le Portugal, 2-0, qu'ils se retrouvent troisième, et qu'ils affrontent
la Belgique. Achille, juste pour rappel, lors du dernier Euro, le Portugal a fini troisième.
Non, mais j'entends bien.
Et a gagné l'Euro.
J'entends bien, mais moi, ce que je veux, justement, c'est qu'à un moment donné, il faut que l'équipe de France, là où elle est le meilleur, c'est quand il y a de l'adversité. Et dans ce cas de figure, qui termine troisième, et comme ça, on va voir le parcours, ça, comme tu le disais, et on verra si, effectivement, le niveau de l'équipe de France est bon ou pas.
Si on veut l'adversité, je suis d'accord avec toi. Maintenant, quand on parle, c'est vrai qu'il y a beaucoup de chance chez Didier Deschamps, parce qu'on est, en fait, on est toujours premier, quoi. Si on avait été deuxième ou troisième à un match de la fin, on pourrait se poser des questions. Mais là, on est quand même en position de force. Je pense que même si tu le dis, si on était directement passé au quart de finale, demain il aurait fallu juste un résultat nul pour qu'on se qualifie. Donc
c'est vrai, là, premier 4 points.
Je pense que.
Mais derrière ça.
Je pense que oui. Je pense qu'il a du mal à faire des changements. Je pense que dans des cas de figure, il a les joueurs pour jouer dans tous les systèmes possibles. Maintenant, on est premier. Je pense qu'on va pas se plaindre.
Ouais.
Je pense que lui, ce qu'il aime, c'est les matchs couperets, comme tu le disais tout à l'heure, Achille, quand tu parlais.
Moi, je veux qu'il fasse jouer Mandanda. J'en ai marre de voir Lloris dans les buts.
Non, mais tu nous
c'est
dis
tout.
Mandanda.
Je veux voir du changement. Ouais, j'en ai marre de voir les mêmes.
Mais non, mais
j'en ai marre.
Il y a des joueurs.
Mais non, on le préserve.
Alors vas-y.
Non, il y a des joueurs qui doivent plus jouer. Je suis totalement d'accord avec toi, même si tu les mets pas dans le 11. C'est vrai que en cours de match, tu dois faire tes changements plus tôt. Mais maintenant, on est en position de force. Je vois pas le Portugal nous mettre en difficulté, surtout avec ce que j'ai dit tout à l'heure. Les 11 que met Fernando Santos, c'est deux vigiles au milieu de terrain, très peu de créativité, et Ronaldo qui est là pour finir les actions. Donc c'est très fragile. La défense centrale qu'on nous vend avec Ruben Dias et consort a été mise en grande difficulté par l'Allemagne. Ils sont quand même mangé 4 buts après avoir ouvert le score.
On attend du changement. On veut voir du Clément Langlais.
Il y en a eu. Il y en a eu avec cette équipe de France quand même.
On veut voir Samir.
Après, on parle de
chance.
On parle de chance individuellement dans nos vies. On aurait tous aimé avoir autant de chance que Deschamps.
Il est né avec. C'est dans son ADN. C'est dans son ADN.
Merci Sarah, merci Samir et aussi Abdel, sans oublier Achille, de m'avoir accompagné sur cette première heure. Et oui, ce fameux groupe, le groupe B, c'était la fameuse Ligue des Champions. Hein, au niveau assez relevé, on va voir si ce groupe D aura cette tendance-là aussi ce soir. Hein, en la personne de Mourad et toute son équipe, y compris Viknesh. On verra bien, parce qu'il y a de beaux matchs aussi dans ce groupe D. Vous restez avec nous, une courte pause avant de revenir pour cette deuxième heure de Tamfoot.
Retrouvez Time Foot, spécial Euro 2021, du lundi au vendredi de 19h à 21h sur Beurre FM. 19h, 21h, Time Foot, spécial Euro 2021 avec Bilal Nenman.
Et de retour pour la deuxième heure sur l'antenne de Beurre FM, 20h, 21h, en compagnie de ce fameux groupe D. Et oui, on a, alors on aura Louis-Marie par téléphone, on a aussi Mourad, sans oublier Viknesh. Achille est resté avec nous, tout nouveau, allez, que vous pouvez apercevoir, entendre plus précisément, le dimanche soir en compagnie de Mohand. Le bonsoir à tout Rouen et à Mohand, fou de sport, 18h, 20h, le dimanche. C'est Soufiane. Comment ça va, Soufiane?
Ça va, Bilal, et toi?
Ça va très très bien, Soufiane. On est en compagnie de Mourad. Ça va, Mourad?
Ça va très bien, Bilal.
Ouais, ça va très très bien. On a Achille, juste là. Il était sur la première heure avec Abdel, ouais, Sarah, ouais, et aussi Samir. Ça va?
Ouais, ça va, toujours.
Ok, et bien sûr, en compagnie. Pardon, la question que je pose, c'est est-ce que l'humeur d'Achille a changé depuis que je suis en face de lui?
Ah, ben je sais pas.
Mais bien sûr, c'est normal.
Ah, voilà. Ah, ouais. Ah, bon, on va voir.
J'aurais dû venir avec des
Ils ont mis la barre très très haute aussi, le groupe
Père. Ok, on est prêt.
Viknesh, ça va toi?
Ça va très bien, ça va très bien.
Faudrait assurer.
On est là.
Alors, on va donner les compositions de ces matchs de ce soir, de ce groupe D. C'est parti.
Time Sport.
Yanis, il est toujours là. Des fois, un petit peu fatigué, mais ça va. Il est là. Hein? Ben oui, Yanis, t'inquiète pas. Tu peux faire ce que tu veux dans le casque. On a l'habitude. Tu peux même couper le son, ça fait rien. La composition de ce Croatie-Écosse. Allez, on l'a personne. Je sais pas si on l'a avec toi, Achille, ou encore avec Mourad. On les a fait part de ces deux compositions, si on peut les regarder. Allez, on va commencer avec toi, sur ce Croatie-Écosse, Soufiane. Allez, tu peux nous donner celle de la Croatie, par exemple.
Alors les Croates, alors, ouais, dans les buts on aura Livakovic,
ouais,
la défense centrale Versalico Lovren, donc Lovren de Liverpool, Vida et Gvardiol, au milieu de terrain Modric, Bozovic, Ivanušec et Vlasic, et devant Perisic et Petkovic.
L'Écosse, Achille, est-ce qu'on a celle de l'Écosse?
Oui,
non.
Oui.
Alors Achille,
celle de l'Écosse, on aura Marshall dans les buts,
ouais,
très probablement une défense à 3 avec McTominay, Hanley et Tierney, O'Donnell, Armstrong, McGregor et McGinn, Robertson, et devant en attaque c'est Dickes et Adams, donc c'est plutôt un 3-5-2 pour les Écossais.
Eh oui, premier match de ce groupe D. Mourad, un aperçu, peut-être un ressenti déjà?
Non, je pense que ce seront deux matchs, ces deux affiches alléchantes. Je pense que ça joue en même temps.
C'est ça, 21h.
Croatie,
quand les derniers matchs
sont Croatie, c'est ça.
Moi, il y a un petit truc qui me dérange.
Alors,
justement,
c'est quoi?
C'est ce scénario du meilleur troisième. J'ai l'impression que ça fausse un peu les débats. Ça permet de mettre en. De...
Ah, si on sent, si on sent qu'il a écouté 19h, 20h, lui. Hein.
Ah, bah,
on sent.
Je t'aime, Mourad, je t'aime.
Justement. Ah bon, c'est très bien, ça veut dire qu'on est sur la même longueur d'onde. Oui. Mais ces calculs d'épicier qui sont effectués, je dis pas ça parce qu'on est sur Beurre FM,
ouais, hein. Pas du tout.
Ces petits calculs d'épicier qui sont effectués justement en vue de se qualifier, ça fausse un peu la compétitivité. Je m'explique, pour le groupe D, le premier du groupe D affrontera le deuxième du groupe de la France. D'accord. Donc est-ce que ça incite l'Angleterre à jouer à fond son match contre la République tchèque si elle était amenée à finir première du groupe D? Puisque le groupe de la France, le groupe F, hein, c'est ça si je me trompe,
c'est
pas
ça, c'est ça.
Selon moi, le groupe le plus relevé, avec les trois meilleures équipes de cette compétition.
Ouais.
Donc est-ce que l'Angleterre n'a pas intérêt à lever le pied, d'accord, face à la République tchèque pour éviter un de ces trois gros poissons qui sont le Portugal, la France et l'Allemagne. Donc voilà, moi, pour moi, ces calculs d'épicier, d'apothicaire, allez, pour être un peu plus soutenu, ça fausse un peu la compétition. Voilà.
Mais après, ça fait partie.
Alors,
de la
vas-y, Viknesh, avant d'avoir la compo de République tchèque et Angleterre.
Mais
vas-y,
pour moi, ça fait partie de la compétition, en fait, justement. C'est l'avantage de jouer un peu avant les autres. Du coup, on peut se permettre de plus ou moins décider la place à laquelle on veut être et décider aussi, par conséquence, l'adversaire que l'on veut affronter.
Tu penses, ça, c'est un avantage. Est-ce que c'est bon pour la compétition? Est-ce qu'il y a
non, après, moi, je suis pas d'accord avec ça, bien sûr.
Je parle pas d'effet Poulidor, mais est-ce que l'Angleterre n'a pas intérêt à finir deuxième pour affronter le dauphin du groupe,
bien sûr,
du groupe de l'Espagne?
Bien sûr, parce que
moi, le groupe le moins
faible. Le moins faible.
Le niveau de jeu le plus faible.
Carrément.
Encore faut-il qu'ils aient qu'ils aient un coach qui soit capable de pouvoir produire.
Mais ça, on est encore très très loin de ça.
Jeu.
Ça, c'est alors, encore autre chose.
Pour finir premier, ouais. Et potentiellement, parce qu'à l'heure actuelle, il peut faire tout ce qu'il veut tant qu'il sera à la tête de cette sélection.
Ils ont nul part.
Sofiane, tu en penses quoi, Sofiane?
Très décrit autrement.
Alors, on t'écoute, Sofiane.
C'est mérité, surtout.
Il faut quand même se rappeler que les Anglais, en 2016, près de l'Islande, qui était annoncé comme étant le petit pousset de l'Euro.
Ah, ils ont fait mal.
Et ils sortent contre l'Islande.
Pour les Vikings.
Donc, gros ou petit, en compétition.
Pour l'Angleterre, c'est pareil.
Pour l'Angleterre. Bon, l'Angleterre, c'est promesse et déception, j'ai l'impression. Ouais. C'est deux mots qui caractérisent cette sélection. On a, pour moi, un coach qui est en deçà. Déjà, en tant que joueur, pour moi, c'est un peu le chat noir de cette équipe d'Angleterre. Des fouilles
à l'antiquaire, je dirais. La dégaine d'un antiquaire.
Ouais, c'est pas faux.
C'est clair, je sais pas à qui me fait penser, mais en tout cas, c'est le chat noir de cette équipe. Il avait loupé le penalty en demi-finale en 96 face à l'Allemagne.
Ça a marqué, exactement.
Il reprend cette équipe, il a des talents fous sur le banc, il met une équipe un peu rigide et très frileuse au milieu de terrain, la ligne des clones, un peu comme Santos avec le Portugal. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, il met William Carvalho, il met du Danilo. Donc moi, je suis pas très fan justement de la méthodologie Southgate. Et j'aimerais justement voir un nouveau souffle avec l'intégration des Grealish, des Jadon Sancho. On pourra l'évoquer un peu plus tard.
On va en parler. On va rester sur ce fameux groupe D.
Anderson aussi.
Avec ces deux matchs, il n'y a pas de problème. Ouais. Le 0-1-53-48-3000. On a Louis-Marie aussi, qui dépend de ce fameux groupe D.
Louis-Marie.
Louis-Marie me dit je suis en ligne. On sait que tu es en ligne. Mais il faut carrément prendre le monopole, Louis-Marie. Allez, on t'écoute, Louis-Marie. Bonsoir, Louis-Marie.
Bonsoir à tous. Salut les copains.
Ça va?
Salut.
Ça va, Louis-Marie?
Bah, ça va bien. Écoutez, toujours dans le sud, prêt à remonter dans la canicule parisienne.
Ah bah. Profite bien pour l'instant.
Ouais, c'est ça. Louis-Marie, on parlait de ces fameux, ces deux compositions, ces quatre mêmes compos de ces deux matchs de ce soir 21h. Le groupe D, Croatie, Écosse et aussi le République Tchèque, Angleterre. Un petit mot avant d'enchaîner après tout au long de cette émission sur les forces en présence de ces quatre nations, Louis-Marie.
Alors moi je vous écoutais sur l'Angleterre,
ouais.
Ce qui me vient dans cette équipe, et ça a toujours été un peu le cas, moi je trouve depuis des dizaines d'années dans cette sélection, c'est que ça manque d'équilibre. Quand je vois l'équipe des Républiques Tchèques, alors c'est pas brillant, il n'y a pas les talents qu'il y avait avant, mais je vois un équilibre clair. En Angleterre, c'est pas évident, c'est pas vraiment où jouent les mecs, c'est un peu de l'approximation, on a des profils qui sont un peu similaires.
Exactement,
carrément, surtout devant.
Moi, j'ai du mal à comprendre ce qu'il veut faire, Southgate, avec cette équipe. Et finalement, j'ai écouté effectivement ce que nous disait Mourad à ce sujet.
Oui.
Je trouve qu'il laisse des profils un peu différents sur le banc, que je ne comprends pas trop. Moi, je trouve qu'un joueur comme Anderson pourrait bien faire le lien dans cette équipe.
Je suis d'accord avec toi, je pense qu'il est indispensable même, justement. Il n'y a pas de lien.
C'est le cas à Liverpool, il est indispensable.
Ils n'ont pas ce type de profil. Declan Rice et Philippe, ce sont des clones.
Quand
tu joues face à des équipes qui sont supposées plus faibles,
il faut avoir la balle.
Tu peux pas te permettre justement d'aligner ces deux mêmes profils. Si tu joues la France, l'Allemagne, etc., tu peux jauger au moins sur les 60 premières minutes en mettant ces deux points de basse. Mais quand tu joues l'Écosse à domicile, à Wembley sous une pluie battante, ouais, sachant que le seul argument que l'équipe a en face, c'est le fighting spirit et le kick and rush, pour moi, il y a quelque chose qui cloche.
Bah, et surtout, moi je trouve qu'il faut trouver un équilibre dans le milieu de terrain. Moi j'ai du mal à aimer les équipes où il y a 2-6. Parce que pour moi, Declan Rice et Philippe, ce sont des 6.
Carrément.
Pour moi, il faudrait un vrai 6. Moi je mettrais Declan Rice, que j'aime bien.
Tout à fait.
Très bon choix. Qui va être capable de mettre le lien entre lui et le Foden. Il y a un trou dans cette équipe entre les défensifs et les offensifs.
Exactement.
Non, mais il y a surtout une hype.
Alors, Achille,
certains joueurs qui, à mon sens, sont des potentiels futurs, grands, mais sont des potentiels.
Tu veux dire
qui sont des potentiels. Quand je vois un mec comme Jadon Sancho, il n'a toujours pas joué une minute. Il n'est toujours pas sur un rouge de départ. À un moment donné, il faut se poser des questions.
Je pense qu'il est à Wembley pour négocier son transfert à Manchester United.
Ouais, c'est plus simple. C'est plus simple pour la négociation.
Non, mais je pense que c'est
dans ce groupe. Ouais. Quand peut-être je vois ça, paye ses écarts. Peut-être qu'il paye ses écarts.
Pourquoi le prendre en fait? Mais pourquoi le prendre?
Je sais pas. Quand tu vois ça,
non mais
c'est même pas remplaçant. Il est même en tribune.
C'est dans les matchs amicaux.
On parle de Jadon Sancho, mais t'as aussi d'autres joueurs qui ne jouent pas. On se demande pourquoi ils ont été convoqués. Quand tu vois. Non mais déjà Bellingham, j'arrive pas à comprendre qu'est-ce qu'il fout là, Bellingham, dans cette sélection.
Ouais.
Certes, c'est un potentiel futur, mais à un moment donné, faut arrêter. Mm-hmm. Tu vois les 6 derniers mois de Jesse Lingard, je suis désolé.
Tu le prends les yeux fermés.
Il est exceptionnel. Il arrive dans un groupe élargi.
et tu le fais pas jouer, et tu le fais jouer match de coiffeur, après lui avoir dit merci, au revoir. Mais en fait, concrètement, cette sélection, elle va aller nulle part.
Ils ont la stratégie avant Euro de Southgate, mais elle était limitée. Il a testé beaucoup de joueurs qu'il n'a pas intégré justement dans sa liste des 26.
Mais même,
ce qui est très bizarre.
À compter du moment où on a eu comme génération Lampard, Joe Cole, Scholes,
Ferdinand Terry,
Ashley Cole,
Owen,
Elena Corsociane,
Owen Rooney. Alors, quand tu as eu tout ce monde là, alors, et que tu n'as rien gagné, c'est pas avec cette équipe là, avec ce coach-là, que tu vas avoir quelque chose.
On va revenir. On va revenir avec même Louis-Marie. Sofiane, et on revient à toi. Sofiane, ouais. Réaction. Avec tout ce qui s'est dit là autour de ce plateau.
Non, mais deux choses. Les Anglais, la manière de jouer, les joueurs qui sont choisis, j'ai l'impression que ça correspond, tu sais, à une évolution du foot.
Ouais.
Qui est que depuis Didier Deschamps, champion du monde, on est plus sur le côté défensif, le côté physique, la solidité d'abord. Et j'ai l'impression que Southgate, c'est ce qu'il fait. Il faut voir aussi que les Anglais en 2018 n'avaient pas fait une Coupe du Monde top. Ils font demi-finale. Bon, c'est pas une équipe déjà, les Anglais de base qui font en compétition. Depuis 1966, il n'y a pas grand-chose. Ouais. Et il faut rappeler aussi, c'est ce que disait Achille à ma gauche. C'est que les Anglais, ils ont eu des générations extraordinaires qu'on a toujours annoncées. En sélection, ça n'a jamais rien fait. Les sélections, moi j'avais souvenir en 2006 d'une équipe avec Beckham, Gerrard, Lampard. Ah ouais.
Ils ont fait mal. C'est magnifique. C'est extraordinaire l'équipe.
On en parlait.
Alors moi, j'aimerais revenir sur cette équipe. Ouais. Cette équipe justement de 2006, moi je ne suis pas tout à fait d'accord avec mes deux comparses, dans le sens où cette équipe avait de très très grands talents, mais c'était le clone. Justement, ce qui manquait dans cette équipe en 2006, c'était des profils différents. Alors que je suis désolé, Lampard, Gerrard, Scholes, c'est des numéros.
Ce sont des clones. Et tu peux rajouter Beckham aussi. Hein.
Ouais. Tu peux rajouter Beckham, c'est les mêmes.
Et donc c'était le seul problème de Fabio Capello, c'était de faire jouer, excuse-moi Louis-Marie, c'est de faire composer ces quatre joueurs, qui selon moi étaient des clones. Et donc c'était une erreur fatale de Fabio Capello.
Aujourd'hui, moi je trouve que l'Angleterre, potentiellement, alors il y a moins de grands talents, même s'il y en a, hein, c'est peut-être plus pour demain, mais en tout cas, cette génération d'Anglais, ils ont des joueurs un peu à tous les postes, ce qui n'était pas le cas à l'époque. Donc il y aurait moyen de faire une équipe équilibrée.
Je suis pas forcément d'accord, pas du tout.
Si, quand même.
Je pense que l'équipe en 2006 était beaucoup plus complète, même si effectivement il y avait des joueurs qui avaient des profils relativement similaires. Néanmoins, c'était une qualité supérieure. Tous titulaires dans les gros clubs. Et oui, là, quand on parle de gros clubs, c'est le top 3 européen, et titulaire indiscutable avec un brassard. Et quand tu vois cette équipe-là aujourd'hui où l'Angleterre est remis aux foudres ou aux exploits d'un jeune Foden qui vient à peine de faire sa première saison
au niveau
complète dans un Euro, à savoir que l'Euro c'est la compétition la plus dure et la plus difficile à remporter de toutes les compétitions.
J'ai mémoire de poids.
Ouais.
Faut pas abuser.
On a un poisson rouge là. Vas-y.
Il a une mémoire. Le problème, il n'est pas de dire.
On a Louis-Marie qui en
parle. Bien sûr, qu'il a plus de talent.
Est-ce que tu peux le muter, s'il te plaît, Yannis?
C'est pas des individualités qui comptent. Là, je parle de collectif. Ils avaient beaucoup d'individualités extraordinaires.
Il n'y a pas de collectif aujourd'hui. Il n'y a rien.
Achille, Louis-Marie, vous avez une réaction avec Mourad.
C'est juste qu'il pourrait y avoir un collectif. Aujourd'hui, il n'y en a pas. Mais ils ont le potentiel pour en construire un. Et donc moi je rejoins Mourad en disant que ce sont les choix de Southgate qui sont à remettre en question, parce que les profils différents.
Il est d'accord avec toi.
Ils ont une équipe qui pourrait être complète. Et c'est leur problème de ne pas réussir.
Merci le mari. On rejoint Mourad et Liknesh.
Je suis d'accord avec deux choses.
Alors,
avec Louis-Marie dans un premier temps, qui est d'accord avec moi, donc généralement je suis d'accord avec les gens.
C'est beaucoup d'accord là-dedans. Et il nous a perdu là.
Et je veux rebondir sur l'argument de Sofiane qui mettait en avant la hype autour de Deschamps, qui consiste à avoir une assise défensive pour aller très loin dans une compétition. Je suis d'accord avec Sofiane, mais à condition de faire jouer des joueurs à leur poste. Quand t'as deux points de basse, alors que t'es censé en avoir une en club, Declan Rice et Phillips, t'en as ligne 2, tu fais jouer Trippier, qui est droitier, arrière-gauche, que tu fais jouer Phil Foden, ailier droit, alors que toute la saison il joue à gauche, il y a un problème. Harry Kane n'évolue pas dans la même animation offensive à Tottenham qu'avec l'équipe d'Angleterre. J'aurais bien vu à Calvert-Lewin, est plus apte à faire face à des blocs bas. Il a le meilleur jeu de tête d'Angleterre. Donc, faire jouer les bons joueurs à leur poste. Donc, avant d'avoir une assise défensive, je pense que c'est la base. Il a mis la charrue avant les bœufs, Southgate. Donc,
Moi,
c'est pour ça qu'il est très décrié autre manche.
C'est vrai. J'aimerais bien voir sur le banc d'Arsenal, moi, Southgate.
Ah ouais.
Ah,
ah,
mais non.
Dédicace à moi, c'est pour ça.
Mais arrête, toi aussi, des tacles à la gorge comme ça, là, en plein phase finale de l'Euro.
Le problème avec Southgate, c'est qu'en fait, Southgate, il sait même pas où il va. Il a trop de bons joueurs, d'excellents joueurs, mais il n'arrive pas à faire un collectif. Il a beaucoup d'individualité, beaucoup de joueurs qui sont similaires au niveau du jeu, même enfin entre autres devant avec Sterling, Rashford, Sancho, etc. Mais il n'arrive pas à faire un collectif avec cette équipe-là, alors qu'il a des pépites, hein, mine de rien. Cette année, on a la révélation. Il faut beaucoup de temps.
C'est de prendre les 3 points face à la Croatie, coûte que coûte.
Oui, mais vu comment ça a été pris, c'est compliqué. En fait,
tu affrontes l'Écosse, tu dois ajouter de la qualité justement à ton système.
Mais tu le fais pas.
Équipe d'Angleterre. Tu répliques pas ce qui n'a pas fonctionné face à la Croatie. Donc il y a un problème de process pour Southgate.
Ouais, mais il cherche pas à modifier, à corriger ce qu'il fait.
Les gars, pour moi cette équipe d'Angleterre.
On va terminer avec Achille avant la pause.
Ouais, pour moi cette équipe d'Angleterre, ça fait partie pour moi des équipes surcotées de cette Euro.
Ah ouais, quand même.
Non, en fait, au niveau des joueurs,
je vais t'expliquer, une anecdote.
Vas-y.
En 2010, il y avait des maillots avec deux étoiles qui sont vendés déjà en Angleterre parce qu'ils avaient ce fameux milieu de terrain, ce carré magique, Steven Gerrard, Beckham, Lampard. Et je pense que c'est des Gareth Barry, même si c'est pas si magique
c'est
que ça.
C'est un bon joueur.
Ils vendaient des maillots à deux étoiles à l'époque. Donc il y a une.
Sérieux.
Non, mais c'est un foot business, justement.
On attend encore les maillots.
Cette équipe d'Angleterre. Et c'est ce qui se passe. Les maillots de l'Angleterre, des Foot Lions, sont. Sur les étagères, dans la grande distribution, dans les magasins de sport, ils se vendent 200 euros.
C'est ça.
Donc vous imaginez le.
C'est marketing.
Donc ils ont tout intérêt justement à dire que football is coming home.
À un moment donné,
l'Angleterre,
c'est comme les Pays-Bas, c'est comme.
Il y a beaucoup de stars, il n'y a pas d'équipe.
L'Espagne fut un temps.
C'est un niveau en dessous.
Voilà, c'est ça. Comme la Belgique, c'est des équipes qui ont des joueurs sur le papier,
incroyable.
Mais qui, dès lors où ils rentrent. Avec le maillot de l'équipe nationale.
Le seul point positif que
j'ai, c'est Achille, merci Mourad.
Durant cet euro.
Et c'est bien. Partout,
là, j'ai l'impression que.
Mourad, il reste avec nous avec Viknesh, Soufiane pour sa première et aussi, sans oublier Achille. On te garde avec nous, t'inquiète pas, on te met pas le mute. Hein. Louis-Marie, reste avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Reste avec nous, vous aussi, chers auditrices et auditeurs de Beurre FM. On revient rapidement avec l'équipe de France.
Time Foot spécial Euro 2021 revient dans un instant. 19h, 21h, Time Foot spécial Euro 2021 avec Bilal Nenman.
Et de retour dans cette émission qui est Time Foot, 19h, 21h, on le rappelle, c'est la deuxième heure avec le groupe D, Mourad, Viknesh, Soufiane et aussi Achille pour m'accompagner. Eh oui, Louis-Marie, c'est ça. Louis-Marie par téléphone qui est avec nous. Ouais. Il est toujours connecté sur Louis-Marie. Allez, on va aborder le cas de l'équipe d'Espagne.
Time Sport. Le duel.
Je sais pas comment faire avec l'équipe d'Espagne, justement. Juan José Dorado ou encore Terran, c'était assez triste de cette fameuse sélection espagnole. Eh oui, pas quelquefois un peu étouffé, même son jeu. C'est la fin d'un cycle, peut-être, hein, Achille. C'est autre chose.
En fait, c'est un paradoxe. Parce que c'est une équipe qui, la fédération a fait le nécessaire pour pouvoir travailler sur plusieurs années en nommant, Luis Enrique. Luis Enrique à la tête de cette sélection pour un projet qui doit arriver à son terme en 2026.
Donc, dans le temps.
Tu parles de la construction d'un stade ou tu parles
de l'équipe.
Je parle de la sélection.
Bah, tout comme ils sont repartis de zéro après la défaite.
À toutes les compétitions.
On en est d'accord.
Il y a des fins de cycle, la reconstruction.
Reconstruction. Sauf qu'il y a un réel problème, c'est que. Depuis que la compétition a commencé, l'Espagne, c'était une sélection qui, on le rappelle, lors des phases de qualification, mettait des gifles à tout le monde, invaincu, encaissait très peu de buts, et on se disait waouh, peut-être que la nouvelle génération espagnole, elle est là, elle est bien présente, etc. Et on arrive, début de la compétition, déjà premier problème, pas de joueur du Real Madrid. Le vestiaire en scission. Le coach décrié et de ce qui se dit quand on voit, c'est du tiki-taka qui ne sert à rien, possession stérile, des occasions qui ne sont pas converties, certains joueurs qui ne jouent pas. Et je vais continuer de détruire cette équipe d'Espagne parce qu'elle le mérite. Justement, il faut être assez dur envers les équipes qui sont qui ont frôlé, qui ont touché l'excellence pendant un certain nombre d'années.
C'est extrêmement pauvre. Ils ont repeint leur meilleur défenseur en rouge alors qu'il est en bleu.
Voilà, exactement aussi.
La Puerta,
exactement. Ça relance le débat sur les binationaux.
Exactement.
Non, mais quand même pas moi.
Ce que je veux dire, c'est que à un moment donné, on arrive à un tel point. Que je suivais un peu les informations de quelques confrères espagnols qui disaient que Luis Enrique, la fédération commence déjà à réfléchir à si il ne gagne pas demain, peut-être potentiellement le virer.
Ben,
et il y a d'autres, certains de nos confrères qui disent que si jamais il ne gagne pas, de par lui-même, il serait capable de prendre la sortie. Alors, c'est bien de vouloir programmer une équipe de rentrer dans un cycle sur plusieurs années. En attendant, tu ne peux pas te permettre de laisser un Ramos
à la maison. À la
Casa. Parce que c'est pas comme si aujourd'hui Paul Lopez, il est bon, mais c'est pas Ramos.
Après, Ramos, il est pas prêt physiquement. On a des exemples aujourd'hui durant cette
journée
où on a des
Derrière sur le banc. Non, mais Derrière sur le banc.
Qui sont sur la jante, comme Harry Kane par exemple, et qui ne performent pas.
Ouais, mais je veux bien.
C'est pas un choix si stupide que ça de Luis Enrique de laisser.
Surtout qu'il vient de une blessure, il a 35 ans.
Dans les tribunes. En hoodie, en train de lever les bras pour encourager Karim Benzema sur le terrain.
Oui, mais ça reste...
Moi, je dis ça, je dis rien.
Non, mais ça reste quand même un personnage central.
Oui, au niveau dans le vestiaire, oui.
Et dans le vestiaire. Et on le sait tout aussi bien, tu le sais tout aussi bien que moi, que ce type de profil-là, c'est le joueur qui est capable, à un moment donné, quand le coach n'a plus les solutions, et comme Luis Enrique, il a zéro solution.
Quand je vois sa demi-finale face à Chelsea.
Tu comprends pourquoi
ça, non, mais il pense suffire. Je suis d'accord avec Luis Enrique.
Non, mais il pense suffire quelque chose.
Il manquait de rythme. Ah oui. Je sais pas si vous vous souvenez de sa prestation. Ça allait trop vite pour lui.
Mais il revenait de blessure, c'est normal aussi.
Mais tant bien même, on parle de Didier Deschamps qui a sélectionné Adil Rami lors de cette Coupe du Monde 2018, qui n'a pas joué une seule minute, mais il avait un rôle prépondérant. Ouais. S'il n'était pas là, c'est pas sûr qu'il
compare
de France.
Pas Adil Rami avec Sergio Ramos.
Non, mais je
déjà dans
rôle,
à quelques ligues de concret, ça va.
Dans le rôle qui Sergio Ramos aurait pu tenir au sein de cette sélection, c'est des bambins. Il n'y a pas forcément de.
Mais est-ce que tu peux dire à Ramos de faire ça?
C'est pas une grosse génération. Et surtout, on retrouve le Barcelone ennuyant.
En fait, Sofiane, on l'écoute. Avant de partir du côté de Lumaré.
Luis Enrique, c'est du tiki-taka sans Xavi, sans Iniesta et sans la MSN devant.
Voilà, exactement.
Ça fait beaucoup de monde quand même. Hein.
Ça fait beaucoup de monde, sachant en plus que cette équipe d'Espagne, ce tiki-taka, c'est un football aujourd'hui qui est devenu complètement obsolète. Depuis 2014, on a trouvé la parade. Comment contrer ce football? Aujourd'hui, le football, et maintenant c'est Chelsea, c'est l'équipe de France, c'est-à-dire avec une grosse densité physique au milieu de terrain. Des transitions rapides. Sachant qu'il faut ajouter aussi, parce qu'il faut tordre le cou à une idée, que le Barça qui gagne 2009, je crois que c'était Touré, Puyol, Piqué, c'est quand même des costauds. Tu prends 2015. Ouais. C'est, bon, même dans ce Barça-là qui gagne, qui joue le tiki-taka, t'as quand même une densité athlétique qui était présente.
Puyol, Piqué.
Là, Enrique, t'as pas une grande génération.
Tu fais jouer Marco Llorente à
intéressant.
Droit.
Vraiment, Soufiane, intéressant.
Aspilicueta
qui vient de nous balancer.
Bien sûr.
Ouais, le consultant Soufiane. Alors, Mourad, rapidement, avant d'avoir Lumaré.
Moi, je pense que l'Espagne, déjà à domicile,
le groupe E,
l'a prouvé. Ils ont
avec l'Espagne et la Suède.
Ils n'ont jamais su. Je pense que c'est aussi ce côté chat noir de ne pas réussir à domicile.
Ouais.
Mais c'est aussi le manque de réalisme devant.
Aussi.
Quand on a un Alvaro Morata, justement, qui ne met pas ses occasions au fond, et que tu as une possession de balle à plus de 80%, et que tu comptes sur cette avancante-là pour concrétiser, et qu'il n'est pas au rendez-vous, pour moi, Alvaro Morata, c'est le meilleur buteur du monde hors jeu. D'accord? Donc, c'est incroyable. C'est donc, je pense qu'il y a ce petit réglage à faire au niveau de l'avant-centre. Il y a Ferran Torres aussi qui fait de malchance.
Ouais.
Donc, tiki-taka, certes, mais à condition de les mettre au fond. Et Luis Enrique, il ne veut pas les mettre au fond à la place de ses avant-centres.
Alors, Lumaré, et la Roja. Lumaré, on l'écoute. Justement.
Ce que je veux dire de la Roja, c'est qu'on parle beaucoup de l'absence de Sergio Ramos. Mais moi, là où je ne suis pas du tout d'accord avec Achille, c'est que
alors,
un personnage comme ça, tu ne peux pas le prendre pour mettre l'ambiance. Déjà, c'est une première chose. Et il faut éviter que ces mecs-là qui sont en bout de course ne viennent pourrir ton équipe parce qu'ils veulent être titulaires. Moi, je me souviens d'un euro apocalyptique de Lignan Thuram en 2008, par exemple. Mmh. Voilà. Alors, après, sur le fond, sur cette aura, oui, elle est en décalage avec son temps. Voilà, elle essaie d'utiliser des vieilles recettes qui ne fonctionnent plus. Mes collègues l'ont bien dit.
Oui.
Ça marche plus, tiki-taka.
Bien sûr.
Du coup, ils n'arrivent pas à densifier leur équipe physiquement. Le seul qui est costaud, c'est Busquets, mais il n'a plus d'essence dans le moteur depuis au moins 2 ans.
Il n'a plus de jambes.
Cette équipe, il faut qu'elle se renouvelle. et qu'elle se renouvelle différemment sans vouloir faire la même chose que ses devancières, parce que c'est plus la même époque, ils n'ont plus les mêmes talents au milieu. Mais il faut savoir s'adapter aux joueurs.
Donc la Pologne, il n'y avait pas Busquets, alors, il y avait Rodri justement qui est censé être le futur Busquets.
Oui, non, mais à un moment donné, à compter du moment
où
vous prenez les mêmes coachs, faut pas s'étonner d'avoir ce type de style de jeu.
C'est clair.
Et derrière ces principes de jeu, à un moment donné, il faut vraiment du changement. Et j'avais bien aimé l'idée de Barcelone d'aller récupérer le coach de l'Atlético Bilbao qui s'est fait virer. J'ai oublié son nom.
Je parle de Kiki Setién.
Valverde. Aller chercher un coach comme Valverde avec des idées neuves, à tenter d'apporter un peu cette fraîcheur, emmener un peu plus de densité physique, comme le disait si bien Sofiane, et tenter d'apporter quelque chose de plus. Mais si c'est pour prendre un Luis Enrique pro-catalan qui passe son temps à prendre tous les joueurs de Barcelone, à prendre des joueurs qui ont même pas une demi-saison.
Ça rappelle l'Espagne d'avant 2008 avec les clashs entre Raoul, les Puyol, les barcelonistes et les madridistes.
C'est à un moment donné, c'est pas possible. Il y a une grosse
scission. Les rivalités intra-club, c'est vrai que ça pèse beaucoup dans les sélections.
Non, mais en Espagne, là, pour le coup, le simple fait de ne pas voir de joueurs
aucun joueur Real
Madrid dans cette sélection, après, à sa décharge.
Quel joueur du Real Madrid as-tu à proposer pour intégrer cette sélection?
Hormis Ramos. Non, mais c'est ça, justement. Non, mais hormis Ramos, il y en a pas.
Nacho, éventuellement, qui peut
jouer. Nacho, il fait une bonne saison.
Lucas Vázquez, je pense qu'il aurait été dans le groupe, mais il a été blessé. Carvajal aussi. Il en reste aussi en.
Ouais, que Nacho, en fait. Il n'y a que Nacho que tu veux mettre.
À un moment donné, c'est
il
trop.
Il a les arguments pour répondre à cela, Lucien.
Ouais, mais il y a répondu, justement. Il y a répondu. Néanmoins, quand tu vois que je comprends pas, Azpilicueta, champion d'Europe. Double champion d'Europe. Faut pas l'oublier. Il remporte l'Europa League. Il remporte la Ligue des Champions.
Il gagne le champion.
Alors, non, mais attends, il gagne la Ligue.
Vas-y, termine. On va voir Vic Nesh.
T'es peut-être un peu cramé.
J'entends bien.
Surtout cette saison.
Marco Llorente, il a joué combien de matchs?
Alors?
Et Marco Llorente, qui joue avec Simeone, qui a fait cette saison à peu près 55 matchs.
Ouais.
Et il a joué sur les 55 matchs, il en a joué au moins 50 faciles en étant titulaire indiscutable à des postes.
Tu connais la différence d'âge entre des postes, Marcos Llorente
au milieu de terrain,
à des postes qui ne sont pas forcément les siens sous Simeone, et on sait tous qu'est-ce que c'est, est-ce que ça fait de jouer sous Simeone. Je suis désolé, c'est insupportable de voir Marcos Llorente arrière droit en Espagne. Mmh. Tu peux pas me dire que en Espagne, il n'y a pas au moins 3 latérales droits qui sont capables de jouer. Jordi Alba, c'est plus possible.
Il avance plus. Il avance plus.
Merci. Oui, Vic Nesh. Aussi, Soufiane et Loumari.
Pour terminer sur l'Espagne, du coup, c'est qu'en fait, l'Espagne, en fait, ils ont une génération, il n'y a pas de crack, il n'y a pas un joueur qui est au-dessus du lot. Bien au contraire, on a pas mal de bons joueurs qui sont titulaires, qui font des bonnes choses dans leur club, mais il n'y a pas un joueur qui est au-dessus du lot. Et même au niveau dans le vestiaire, il n'y a pas de gros joueurs, il n'y a pas de leader. Ramos, il n'est pas là. Piqué, etc. On voit le manquement aussi à ce niveau-là.
Il y a juste les noms que tu énumères, c'est les noms d'une autre époque. Il n'y a pas de crack actuel.
Ouais, ça, actuellement, il n'y a personne. Actuellement, t'as personne.
On peut en sortir, en veux-tu, en voilà. Ouais. Tu peux parler de boîte à Grenot, tu peux parler de.
Bah, moi.
Oui, t'as les chocolats, si tu veux. Oui.
Ah, ça, c'est un petit délicat, ça, quand tu es tollé.
C'est le problème. À ce niveau-là, il y avait beaucoup de leaders. Actuellement, il n'y a personne, en fait, pour diriger un peu toutes tes équipes. T'as une bonne petite équipe, mais tu ne peux pas faire grand-chose.
Je l'ai interrompu, il était sur le point de nous parler de Di Stéfano.
C'était pas mal aussi.
Après, on a parlé de la position, etc. Le joueur qui peut faire la différence, c'est Gérard Moreno. On a vu, quand il est titulaire, deuxième match, c'est le seul qui joue un peu de manière verticale. Sinon, tout le reste, ils font que des passes à gauche, à droite, à gauche, à droite.
Mettez Unai Emery comme coach.
Exactement.
Loumari,
il faut de la verticalité, il faut jouer vite.
Ouais, la verticalité. Allez, Loumari, peut-être, il aura la solution pour cette sélection espagnole.
Moi, personnellement, j'aurais la solution, parce que déjà, j'aime pas le jeu espagnol.
Loumari, plus bouillabaisse que ta passe.
En ce moment, surtout. En ce moment.
Non, mais globalement, je suis assez d'accord avec Didi. Mettez un attaquant qui prend la profondeur et qui est en confiance.
Moreno,
ce que fait Moreno à Villarreal, oui, bien évidemment beaucoup plus en forme que Morata, c'est plus cohérent, et fait jouer les joueurs à leur poste. On a dit la même chose pour l'Angleterre, c'est inconcevable au très haut niveau de mettre des joueurs, d'essayer d'être approximatif et d'improviser des postes à des nouveaux joueurs. C'est impossible.
Ouais, le problème, c'est leur jeu de Morata aussi.
On peut pas demander à des joueurs d'être milieu offensif toute l'année en club à un niveau moyen plus. Et quand ils arrivent au top niveau, ah ben tiens, on va t'improviser arrière droit.
Oui, il fait avec les moyens du bord, Luis Enrique.
Aussi. Bah, non, pas forcément.
Sud-africain. L'Espagne avait battu 6-0 la Pologne.
Et aujourd'hui,
et là aujourd'hui, ben voilà, l'effet de l'eau a coulé sous les ponts. Un nouveau cycle, nouvel entraîneur, nouveau système de jeu. Ils évoluent sans neuf. Il y a beaucoup de bons joueurs aussi côté polonais. Il y a plus de petites équipes, même si j'ai horreur de cette phrase-là. Il y a plus de petites équipes, mais il y a toujours de grosses écuries. Mais en l'occurrence, c'est ce qui se passe aujourd'hui avec l'Espagne.
Et puis en plus, maintenant tout le monde sait jouer en bloc.
C'est
donc,
ça.
Donc ces blocs-là, c'est super compliqué à percuter pour les équipes comme l'Espagne.
Surtout quand t'as un Glick en défense centrale.
Voilà. Il faut voir aussi que après, pour moi, Espagne, Angleterre, même combat. C'est des équipes qui historiquement sont pas des grosses équipes de sélection. C'est des gros pays.
Sur l'histoire récente, l'Espagne a quand même prouvé.
À part la parenthèse à chanter, 2008-2012.
Ouais. C'est pas mal non plus. C'est pas mal.
C'est une parenthèse. C'est
3 titres quand même.
4 ans.
Dans ce cas-là, tu peux même citer la France, hein, qui a une parenthèse enchantée depuis 98.
La France en sélection, c'est quand même pas mal en résultat.
Depuis 98.
Généralement, quand l'équipe de France passe les huitièmes de finale, c'est
ça va au bout.
C'est bon signe.
Donc, mais juste pour rebondir sur ce qui est dit.
Allez, avant la pause, Achille,
Traoré,
la dernière.
Il a des joueurs pour faire sauter
des blocs
extrêmement bas.
Percuter, ouais.
Mais percuter, il a des joueurs fins techniquement et qui peuvent apporter du sang neuf, de la fraîcheur. Mais non, on reste encore sur du tiki-taka. On fait jouer des Pedri. Moi, je suis désolé, il y a une hype autour de ce joueur-là qui est un formidable.
Moi, je suis fan.
Non, mais c'est
moi, je trouve qu'il est un peu surcoté aussi, pour l'instant.
Mais je suis désolé, comme il le disait si bien Didier Deschamps, il y a le football de club et il y a le maillot. Il y a le maillot de l'équipe nationale. Et ça, c'est un autre niveau encore.
Bien sûr.
Parce que ce n'est pas des joueurs qui sont capables de se transcender quand, à un moment donné.
Ça veut dire quoi? Il y a des joueurs de club et il y a le maillot de l'équipe nationale. Tu peux avoir des joueurs de club, des joueurs de club moins performants en club et très bons en équipe nationale.
Mais c'est ça, c'est ça.
On revient sur ce groupe D, Mourad. Allez, pour le plus grand plaisir de Mourad et de Vignes surtout.
Le sujet des sociaux.
Eh oui, le groupe D, justement. Oh là là, une petite pause va s'imposer, hein, c'est ça? Eh oui, Yanis, le réalisateur. Avant, on aimerait justement revenir sur ce fameux Croatie-Écosse. Eh oui, Achille, la Croatie et l'Écosse s'affrontent pour une qualification en huitième de finale de cet Euro 2020. Viknesh,
La Croatie et l'Écosse, oui, c'est deux bonnes équipes.
On a deux gros matchs ce soir,
Croatie-Écosse, oui, c'est deux beaux matchs.
On a le vice-champion du monde 2018.
Exactement, et demi-finaliste aussi de la Coupe du Monde, donc l'Angleterre. Ouais. Donc, on a deux affiches. Vice-champion du monde.
J'ai failli avaler ma langue là.
pas de soucis.
Vas-y, Viknesh.
On vient pour se compléter. Et du coup, oui, pour revenir sur Croatie-Écosse, oui, c'est deux belles équipes, c'est deux philosophies un peu différentes, mine de rien. Il y en a, comme Mourad, il aime dire Kick and Rush et la culture, on va dire, britannique. Et la Croatie qui a des bons joueurs. Moi, j'aime beaucoup cette équipe parce que la transition, elle est présente. Ils ont une génération qui est du futur avec les Rebic, avec le milieu de terrain qui se renouvelle aussi avec Brozovic, etc. Modric, Rakitic, etc. Ils ont une suite, donc ça, c'est bien. Et moi, je pense que la Croatie peut faire la différence et peut s'imposer et se qualifier. Je pense que c'est mérité aussi pour cette génération. Ce sera le début d'une longue, je pense, d'une longue période.
Je suis pas d'accord.
Alors,
je suis pas d'accord.
On va revenir sur la Croatie, le fighting spirit de l'Écosse.
La Croatie, je pense que la transition a mal été assurée parce qu'on est face
à une équipe
très vieillissante même.
Brozovic n'a pas remplacé un Rakitic qui est absent aujourd'hui, qui a pris sa retraite prématurément. On a Rebic aussi qui a ce rôle de remplaçant de luxe au Milan AC et qui n'enfile pas ce costume avec la Croatie et qui n'a même pas marqué actuellement. Ils ont perdu par la plus petite démarche, certes à l'Angleterre, mais le contenu était très très faible pour un vice-champion du monde. Ensuite, concernant l'Écosse, c'est très hétérogène. On a la Gilmour qui a été l'homme du match face à l'Angleterre lors du deuxième match, qui a été qualifié du, après c'est à prendre avec des pincettes, c'est les tabloïds anglais, de N'Golo Kanté écossais. Donc moi j'adore ce joueur, mais il est out pour des raisons de Covid. D'ailleurs, justement, en parlant de Covid, il faudrait m'expliquer pourquoi Mason Mount et Chilwell sont mis en quarantaine pendant 10 jours et exclus du groupe britannique compte tenu du fait que Gilmour soit positif au Covid-19 et que toute l'équipe écossaise, sachant qu'ils
partent le
terrain d'entraînement, le bus, l'hôtel, ils prennent les avions ensemble, sont autorisés à jouer. Donc il y a un gros problème au niveau du Covid.
Ouais.
Il y a un problème de logique.
Bousquet aussi, pareil.
Donc il y a un problème de logique. Donc je ne sais pas à qui profite le crime, mais il faudrait peut-être le revoir. Mais moi, je vois bien justement cette Croatie faire le boulot. Pour moi, cette Écosse, elle n'a pas les armes pour aller défier cette Croatie. Ils ont un jeu qui penche trop à gauche avec Robertson. Et Tierney. Il y a un gros déséquilibre.
Je pense
que Hampstead Stadium à Glasgow, s'il peut pencher tellement sa pensée à gauche.
Le Marie, on termine avec le Marie avant la dernière pause. Oui, le Marie, on l'écoute.
La Croatie, je trouve qu'il manque quand même deux choses essentielles. Le milieu de terrain, il tourne toujours. Ils ont une tradition de milieu de terrain technique et créatif. En revanche, il n'y a plus d'avant-centre et la défense centrale, elle fait peur.
Ouais.
Je suis désolé.
Lovren Vida.
Kovic qui joue en pointe, c'est une catastrophe.
Ouais.
Il n'a pas du tout le niveau euro.
Ouais, selon toi.
Voilà. Il n'a pas du tout le niveau du.
Tu parles de qui, excuse-moi, je t'ai pas entendu.
De Petkovic.
D'accord.
Oh, c'est un bon joueur.
Ouais, bien sûr.
On l'a pas vu beaucoup jouer celui-là.
Ouais, c'est vrai.
Et la charnière Lovren Vida, c'était déjà une blague en 2018. Je sais pas comment ils ont réussi à s'en sortir miraculeusement, mais Vida, c'est juste une escroquerie.
Est-ce que tu rajouterais pas une blague à la blague avec Tchaletassar?
Tchaletassar, j'étais sûr qu'il allait dire. J'étais sûr qu'il allait ajouter.
Non, mais il est très bon, Tchaletassar.
Quand tu as un milieu de luxe comme celui de la Croatie et que tu as une charnière centrale qui est
aussi faible que ça.
Ça fait redescendre des milieux de terrain comme Modric trop bas.
Ouais,
et donc il y a un problème de transition offensive.
Elle est rapide.
On est d'accord. Non, mais c'est bien pour ça que je te dis que la Croatie, elle n'est pas équilibrée et que cette équipe, elle ira pas bien loin.
Si, on termine avec toi.
Cette équipe, elle est équilibrée dans sa construction. Néanmoins, devant, ça marque pas. Malheureusement,
Marcelo Marie. Merci, messieurs les consultants de Tamfoot. On reste ensemble avec les auditeurs, les auditrices de Beurre FM pour cette dernière partie. On parlera, bien sûr, de République tchèque, Angleterre. À de suite.
Tamfoot spécial Euro 2021 revient dans un instant. 19h, 21h, Tamfoot spécial Euro 2021 avec Bilal Nenman.
Et de retour sur l'antenne de Beurre FM, voilà, toujours en compagnie de Viknesh, de Mourad, Louis-Marie, et à l'écoute de cette émission Tamfoot, tout comme vous, chers auditrices et auditeurs de Beurre FM. Allez, pour sa première, quand je le vois, je pense à Mohan et au coach Nasser Sandiak.
Qu'on salue.
Foot de sport, eh oui, qu'on salue, qui nous écoute de temps en temps, chaque soir, 19h-21h, sur cette phase finale de l'Euro 2020. On a Achille aussi, qui est avec nous. Voilà, on aimerait avoir un peu galvanisé les troupes. On a République Tchèque, Angleterre, Three Lions, il faut nous mettre dans l'ambiance. On a un réalisateur qui est endormi ce soir, mais ça fait rien.
Il est dans le ton, justement.
Vas-y, finis.
Louis-Clos,
il va dire. Son fish and chips.
Voilà. C'est pas mal, sa morale. Allez, on y va avec le dernier match de ce soir.
Time Sport. La troisième mi-temps.
République tchèque, Angleterre, avec toi Viknesh.
Après République tchèque, Angleterre, c'est un gros match. L'Angleterre, on en a déjà parlé tout à l'heure. Après, là, on a pu parler de la République tchèque.
Alors,
pour moi, les Tchèques, c'est une bonne équipe. Ils ont un beau collectif. Il n'y a pas d'individualité qui sort de l'eau, même si Patrick Schick, il est là, il fait la différence. 3 buts, c'est un des meilleurs buteurs de la compétition pour l'instant.
Avec le plus beau but.
Exactement, en plus, c'est du milieu de terrain pratiquement. Donc oui, c'est un très beau but. Oui, donc je pense que les Tchèques, ils peuvent se qualifier. Et ils ont un beau collectif. Moi, j'aime bien cette équipe. Il n'y a pas une star, il n'y a pas un jeu. On connaît leur jeu, on sait comment ils jouent, on sait leurs points forts, leurs points faibles. Donc c'est une équipe assez équilibrée, assez homogène, et moi j'aime bien, ça fait plaisir de la voir, et je pense qu'ils peuvent embêter les Anglais et peut-être s'imposer aussi, c'est pas interdit. Je pense qu'ils peuvent rêver, et je pense qu'ils peuvent même terminer première de la poule, c'est possible.
Ouais, peut-être un peu plus clair ce système de jeu mis en place par les Tchèques. Louis-Marie, République Tchèque, l'Angleterre.
Tout à fait d'accord avec Viknesh. Moi, cette équipe de République Tchèque, elle me séduit.
Ah oui.
Je trouve qu'il y a vraiment un collectif, comme disait Viknesh, qui émerge.
Alors,
il dit qu'il n'y a pas de star. Moi, je trouve que Souček au milieu, c'est quand même impressionnant le travail qu'il a là.
Oui, il fait un beau travail. Après, c'est pas une star non plus.
Non, mais il n'y a pas de star, on est d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que dans le volume de jeu, il n'y a pas grand-chose à acheter.
Ah, bien sûr.
Cette équipe, elle est très dense, elle est très équilibrée, elle sait ce qu'elle a à faire. Elle a un joueur devant qui fait bien le taf. Cette équipe-là a du talent. Et puis, il y a des petits jeunes qui montent. Moi, il y a ce jeune qui arrive, alors qui est encore très jeune, qui s'appelle Adam Jocek, que tous les amateurs de football manager connaissent.
Exactement. Meilleur buteur du championnat tchèque, en plus.
Mais pour le coup, c'est vraiment un énorme talent. Alors, j'aimerais bien le voir un petit peu plus. Alors, pas d'entrée, parce qu'il
Il sera pas titulaire ce soir.
Il sera pas titulaire, mais je pense que c'est quelqu'un qui peut faire la différence si on lui donne un peu les clés. Donc ce soir en tout cas, on va avoir d'un côté un collectif qui est très rodé, qui est sûr de ses forces et qui manque peut-être un peu de talent, de créativité, et de l'autre côté des individualités un peu disparates et bordéliques comme on disait tout à l'heure. Donc c'est complètement jouable pour les Tchèques. Moi je ne serais pas surpris qu'on ait une surprise.
Et il y a aussi, il y a le facteur aussi de continuité à Wembley pour le premier du groupe pour le premier du groupe D, quand on sait que le duo Koufal-Souček ont joué très longtemps à Wembley. Il y a aussi ce facteur à prendre en compte. Je pense qu'ils seront comme à domicile. Ça va peut-être motiver les troupes. Moi, j'aime beaucoup aussi, je ne sais pas si vous l'avez cité, mais il y a aussi Jean Co.
Oui, très bon joueur.
Le blond côté gauche qui me fait penser un peu à Orian Mares tchèque. Il est dribble chaloupé, très bon pied gauche, une qualité de centre incroyable.
C'est Orian Mares dans l'Euro.
J'essaie de trouver des joueurs, on va dire, des joueurs marquants. Et Orian Mares est un joueur marquant.
D'ailleurs, on le félicite pour ses fiançailles.
Hein. Bien effectivement, sûr. Si on peut passer
un petit message, un petit coucou.
Voilà. Couché Mabolouk pour Riyad Mahrez qui s'est fiancé hier soir. Ça a fait le tour des réseaux sociaux.
C'est pas mal.
On a le droit quand même de passer ce petit message.
Bien sûr, c'est la base.
Parce qu'il y a beaucoup de critiques et je pense que l'émission Time Sport, on aimerait justement lui envoyer toutes nos félicitations.
On lui a fait une émission spéciale quand même.
Et ça me correspond.
Et là, il m'a doublé.
Un mariage algéro-anglais. Donc c'est deux pays que j'affectionne particulièrement, donc moi ça me va parfaitement.
Et pas trop là.
Pour revenir à la République.
Alors,
ils seront plus ou moins à domicile avec ce duo de West Ham, Koufali Souchek. Il y a beaucoup de vitesse dans cette équipe de République tchèque. Je pense qu'ils vont poser beaucoup de problèmes à cette équipe d'Angleterre.
Alors, les Anglais peut-être avec les Tchèques.
Sofiane, on revient. Sur les Tchèques, vous avez un peu tout dit sur les capacités, on va dire, créatives de cette équipe. Et j'ajouterai poste de gardien de but, où ils ont Vaklik qui joue à Séville. Et c'est, moi, je trouve que c'est un très bon gardien. Bien sûr. Pour aller loin dans une compétition, si t'as pas derrière un taulier, tu vas nulle part. Effectivement, moi, cette équipe d'Angleterre, comme je l'ai dit, je la range dans les surcotés de 7 euros. Donc, je ne serais pas surpris ce soir que les Tchèques prennent les 3 points et prennent la première place.
C'est pas faux.
Non, mais moi, je le répète depuis.
Une petite pièce selon le début de Marie.
De l'émission. Là. Moi, je mettrais une grosse pièce sur la République tchèque ce soir. D'autant plus que, comme le disait Mourad, le premier de ce groupe-là. J'aimerais bien savoir, Mourad, il affronte le troisième de quel groupe?
Le premier de ce groupe-là, ouais. Il affronte le deuxième du groupe de la France. Donc, c'est-à-dire le top 3 des équipes de ce tournoi, selon moi. Ouais. Et le deuxième de ce groupe-là, il affronte le deuxième du groupe de l'Espagne. J'ai pas les lettres en tête, mais a priori, c'est comme ça que ça se passerait.
Ouais. A priori, je pense que.
Évalué le scénario du cas où l'Angleterre finirait troisième.
Ouais, voilà. Bon, encore, je pense que c'est un groupe où il peut avoir pas mal de possibilités. Est-ce que les sélectionneurs vont jouer pour la gagne ou ils vont jouer stratégiquement parlant pour. Une potentielle troisième place, deuxième place ou première place.
C'est ce que je disais justement en préambule d'émission. Voilà, c'est ce exactement. Que ça, selon
et,
moi,
et ça fausse un peu ce système.
J'aime pas cette règle des meilleurs troisièmes.
Voilà, comme
on est obligé de faire des calculs d'apothicaire.
Dans la première partie, quand tu as des huitièmes de finale, à compter du moment où tu as des huitièmes de finale et donc les meilleurs troisièmes qui sont repêchés, j'ai envie de dire, c'est pour faire de l'audimat, tout simplement, avoir les plus belles nations qui restent le plus longtemps possible, hein, faire monter les audiences, qu'on ait du public, que tout le monde soit content, et que derrière, pour la suite, ça fasse rentrer de l'argent, et que tout le monde soit content. Merci, au revoir, salut.
Ah, il a résumé le foot business de l'euro
en 10 secondes.
C'était un peu bancal, mais je comprends.
Alors, Arsenal.
C'est gratuit.
Comme la compo que tu avais annoncé, puisqu'il manquait un certain joueur concernant l'Angleterre. Il y a Bukayo Saka qui sera titularisé ce soir.
Un joueur d'Arsenal, comme par hasard.
Bukayo Saka.
Il fallait le placer. Oui, c'est ça.
Je suis assez surpris.
Oui.
Je suis assez surpris qu'il passe devant Jadon Sancho.
Tu l'as même pas dit.
Je suis surpris qu'il passe devant Jadon Sancho, puisque pour moi, c'était le
remplaçant. Mais Sancho, je pense c'est une sanction.
Je pense qu'il avait été incorporé pour faire le nombre et prendre de l'expérience. Mais je suis assez surpris.
Mais pour aller dans ton sens.
Allez, vas-y, Achille.
Pourquoi s'attarder à faire jouer Harry Kane, sachant que tu sais très bien que tu es qualifié? Maintenant, reste à savoir quelle position tu vas terminer pour connaître ton potentiel
adversaire.
Pourquoi ne pas faire jouer Dominique Calvert-Lewin?
Non, mais je vais t'expliquer. Parce que d'habitude, je ne suis pas condescendant comme ça, mais ce débat revient à chaque fois et je suis obligé de mettre le doigt dessus. Harry Kane. Il est dans le même scénario que Karim Benzema. Il a besoin d'engranger de la confiance. Et pour engranger de la confiance, il a besoin de temps de jeu pour pouvoir marquer. Et c'est exactement pour ça que Southgate le fait jouer. C'est parce qu'il a besoin d'un Harry Kane en forme. Calvert-Lewin, il va lui donner du temps de jeu. Mais là, Harry Kane a besoin de but. Voilà, tout simplement.
Oui, mais pourquoi ne pas associer les deux?
Alors, Marie, on termine avec toi et aussi Sofiane. Et le pronostic.
Pourquoi ne pas associer les deux? Tu dois gagner. Et je trouve qu'en plus, Harry Kane.
Il est trop statique, Harry Kane, pour être sur un côté. Là, éventuellement, on a
fait le numéro 10, on a fait le mini.
Je te dis en 4-4-2. Ouais. Pour moi, Harry Kane, il est jamais aussi fort que quand il a un autre attaquant avec
lui. Exactement.
Parce que quand il aime bien reculer un peu, prendre le ballon. Et avec Calvert-Lewin, qui justement est un vrai attaquant de surface, qui est puissant, qui est capable de mettre des coups de tête, bah moi, j'aurais plutôt enlevé Grealish,
Non, tu peux pas.
C'est le futur prince de l'équipe.
Bien sûr, spoilé par Southgate.
Ouais.
En fait, il ne peut pas aligner Harry Kane en 9,5 puisque justement, les Free Lions n'ont pas d'ailier qui peuvent prendre la profondeur au même titre qu'un Huminsen avec Tottenham, par exemple. Ils ont des ailiers purs qui rentrent sur faux pieds et qui éventuellement peuvent faire une passe décisive et éventuellement marquer. Mais ils n'ont pas un Huminsen, un ailier buteur. Ils ont Sterling, mais Sterling,
on termine avec Jomari rapide.
Mais pour moi, il n'est pas question d'avoir des ailiers buteurs. Il est question d'avoir des ailiers de débordement. Je suis désolé, Sterling est capable de le faire. Jadon Sancho est un super passeur.
De débordement,
donc
pour
ils
qui
ont les passeurs. Ils ont les passeurs.
Ouais.
Sofiane, si t'as remarqué, il joue avec des ailiers faux pieds. Alors, donc débordement pour qui? Ce sont des ailiers.
Il devrait pas, mais il devrait pas jouer avec des ailiers faux pieds.
Voilà, mais après là, on réinvente la poudre.
Ça, c'est encore autre chose.
Sofiane, du football depuis le Big Bang. Hein, si
on va, mais non, mais quand même pas, quand même pas.
Comment je ferais jouer l'équipe d'Angleterre?
Je te taquine. Tout sauf comme il fait Southgate.
Ah, le Marie, là, ouais, il est taquin. Ouais, Sofiane, avant le pronostic. Alors,
au final, on est revenu sur cette équipe d'Angleterre qui apparemment concentre toutes les attentions.
Ah oui,
tu vois.
On est parti sur un but du Tchèque avec lui, Marie et Vic Nash.
Toujours. Cette équipe d'Angleterre, quand on égrène les talents comme ça, c'est vrai qu'on a l'impression que c'est quelque chose.
Est-ce que tu peux faire vite, Sofiane? J'ai un Eurostar à prendre.
Ça va,
pas de soucis. Ah, je plaisante, je le t'inquiète. Pas de soucis. Mais bon, on a l'impression que c'est une équipe impressionnante quand on égrène les noms comme ça. Mais c'est.
Arteta,
c'est ça?
Non.
Mais en fait, quand on regarde de base, ce sont tous que des joueurs qui sont bons dans leur club, excellents dans leur club, dans des contextes complètement différents.
Aussi.
Et là, en sélection, c'est pas du tout la même chose. Donc,
t'aimerais pas avoir ce problème de riche, toi, en tant que sélectionneur? T'aimerais pas avoir l'effectif?
Après, il faut faire les bons choix. Et là, c'est pas le cas.
Mais merci. Regarde, t'as beaucoup de joueurs avec le même profil, quoi. Donc, t'empiles les talents.
Faut choisir les bons.
Pas de complémentarité avec l'équipe de France.
Oui, mais t'es pas obligé de tous les prendre. Tu peux faire des choix aussi.
Tu les mets sur les bons aussi, certains.
Avec des profils différents et laisser quelques-uns à la maison, si t'as pas à faire plaisir. C'est ça aussi le rôle d'un sélectionneur.
Bah, il en a pris 26 avec.
Ouais. Mais t'as le choix en plus. T'as le choix avec 26.
Il a droit à 5 changements. Je suis désolé, c'est plus les choix de. Les choix d'antan où t'as droit à 22 sélectionneurs.
C'est moi,
d'un joueur.
Allez, Vic Nash.
Et t'en laisses à la maison.
Au pronostic de ces deux matchs de ce groupe D. Et oui, les derniers, troisième journée. La Croatie face à l'Écosse. Vic Nash.
Bah, Croatie-Écosse, moi je dirais 2-0 pour la Croatie.
Mourad, Croatie-Écosse.
Moi je dirais 1-1. Croatie-Écosse.
Achille, Croatie-Écosse.
Il m'a enlevé le score. 1-1 aussi.
1-1. Sofiane.
1-2.
Le Marie, Croatie-Écosse.
Ah, moi aussi, j'allais dire 1-1, mais allez, je vais changer, je vais dire 2-1 pour la Croatie.
2-1 pour la Croatie. République tchèque, Angleterre, Louis Marie.
2-1 pour la République tchèque.
2-1 pour la République tchèque, Louis Marie. Vic Nash.
Bah, exactement, c'est ce que j'allais dire.
Ah ouais, carrément. Ouais, oui, donne. Ok, la République tchèque. Achille.
Bah, c'est exactement ce que je veux dire, mais 1-0.
Ah bah, 1-0. Pour la République tchèque,
volé, Louis Marie.
Ouais. Mourad, on l'écoute, Mourad. Ouais.
Moi, je vois bien Harry Kane libéré ce soir, donc je dirais 2-0 pour l'équipe d'Angleterre.
2-0 pour les Anglais et Sofiane.
0-0.
0-0, match nul donc dans ce groupe D opposant la nation de la République tchèque, des Tchèques, excusez-moi, et aussi l'Angleterre. Un grand merci à toutes les auditrices et les auditeurs de Beurre FM de nous suivre chaque soir sur cette antenne 19h-21h. La suite des programmes de suite après. Et aussi, n'oubliez pas ce soir Vanessa qui arrive après 22h. Merci à Louis-Marie aussi, sans oublier Vic Nash, Sofiane pour sa première, sans oublier Achille et Mourad. Un grand merci. Bye bye. Et très belle soirée à toutes et à tous.
Retrouvez Time Foot spécial Euro 2021 du lundi au vendredi de 19h à 21h sur Beurre FM.